Bonjour! Est-ce que vous allez bien? Bienvenue, les petits amis. Bienvenue pour ce stream. Bon, bah, on va attendre, hein, parce que voilà, c'est à peu près à ça qu'on est condamné. On va attendre la nomination du gouvernement Barnier. Voilà, bon. On va se faire chier, hein. J'ai été contacté, mais j'ai décliné la proposition. Ah, vous êtes nombreux dans le chat à avoir été contacté par Barnier, qui vous a proposé un poste? Ça m'étonnerait pas, ils viennent chercher chez les meilleurs, hein. Bah, attends, les mecs sont pas cons, hein. Ouais, tout pareil, pareil, oui. Ouais. Ouais, il y a 3 jours, ouais. Il est insistant. T'as vu, il est chiant avec ses SMS, hein. J'avais le DLC d'Elden Ring à finir. On peut pas toujours servir la République, hein, à un moment. Le mail a atterri dans mes spams. Il m'a proposé le secrétariat d'État aux anciens combattants. Très important. Bon, on va attendre. Alors, d'autant qu'il y a une donnée rigolote quand même dans le problème que j'y avais pas du tout pensé, mais en regardant France Info, j'ai repercuté. C'est qu'aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. C'est la journée européenne du patrimoine. Ce qui veut dire que l'Élysée et Matignon sont remplis de gens normaux qui visitent. Pour les journées du patrimoine. D'ailleurs, si vous avez jamais fait les journées du patrimoine, je vous recommande de les faire, aller visiter à côté de chez vous des trucs un peu improbables qu'on peut pas visiter. C'est toujours intéressant. L'Élysée et Matignon, je vous le conseille pas parce qu'apparemment c'est noir de monde. Il y a vraiment une file d'attente de tarés. Faut arriver à 8 h le matin, quoi. Enfin, pour avoir une chance de visiter et tu poireautes pendant des heures. Si c'est votre truc, n'hésitez pas. Mais bon. Et pourquoi est-ce que c'est important le fait que ce soit la journée du patrimoine? Bah, c'est parce qu'en fait, la composition d'un gouvernement, traditionnellement, c'est annoncé sur le perron de l'Élysée par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. C'est lui qui vient, il y a un petit micro qui est mis, il y a des enceintes, il y a des journalistes qui filment, et très solennellement, il dit toujours la même phrase, hein, sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé, et là il fait la liste. Dans l'ordre décroissant protocolaire du gouvernement. Et c'est ça là, c'est ça le moment qu'on attend là aujourd'hui. Le truc c'est que j'ai vu les images, bah, le perron de l'Élysée en fait il est noir de monde là. Il y a plein de gens, ils ont garé la voiture du président devant pour que les gens puissent visiter, ils ont mis deux trois petits chapiteaux autour pour que les gens puissent avoir des infos, je sais pas quoi. Donc du coup je me demande vraiment comment ils vont faire l'annonce. Est-ce que pour ce coup-ci ils vont laisser tomber le perron de l'Élysée et ils vont envoyer un communiqué à l'AFP? Ou alors ils vont pas le faire aujourd'hui, ils le feront demain. Mais en fait, les journées du patrimoine, c'est 2 jours, hein. Ça reprend demain, ça recommence demain. Peut-être qu'ils vont fermer l'Élysée. Peut-être qu'ils vont fermer l'Élysée demain et qu'il n'y aura pas de journée du patrimoine cette année, le dimanche, exceptionnellement. Je sais pas, j'en sais rien. Il y en a qui disent Matignon, mais en fait, bah non, a priori, c'est pas Matignon qui nomme le gouvernement, c'est le président de la République, hein, je vous rappelle. C'est le président de la République qui nomme les ministres, sur proposition du Premier ministre. Mais c'est quand même lui qui nomme, donc c'est normalement ça se fait à l'Élysée, quoi. D'ailleurs, théoriquement, en plus, le coup du secrétaire général de l'Élysée qui vient sur le perron et qui parle dans un micro, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Je crois que c'est relativement récent. Je sais pas de quand ça date d'ailleurs. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Sous Giscard ou après? Je sais pas. Bon, écoute, non, mais sinon, ils envoient un communiqué de presse, hein, ça marche aussi, hein. Franchement, c'est pas pour le plaisir d'avoir le secrétaire général, qui, à mon avis, a autre chose à foutre, lui aussi. Qui, en plus, est pas du genre à passer devant les caméras. Enfin, à mon avis, ça l'emmerde plus qu'autre chose. Est-ce que sur la chaîne YouTube de l'Élysée, ils ont prévu un live? Ou alors, ils vont le faire dans la salle de la conférence de presse? Je sais pas. Ou alors à la fin de la journée, une fois l'Élysée fermée. Ouais, c'est possible. Salut Denis, t'as des infos toi Denis sur à quelle heure, enfin à quelle heure non, t'es comme moi, t'as pas d'infos, mais de quelle manière le gouvernement va être annoncé? Est-ce que ce sera Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, sur le perron, comme d'hab? Ou est-ce que, vu que c'est les journées du patrimoine, ils vont prendre autre chose, ils vont aller dans la salle de presse, ou ils vont aller je sais pas où C'est qui Denis? Denis, c'est Denis Masseglia, qui est député de Loire-Atlantique? C'est ça le département? J'ai un doute. La jolie ville de Cholet. Un tweet suffirait. Ouais, non, il peut. J'ai cru comprendre fermeture à 17h30. Ah, intéressant. Maine-et-Loire, merci Denis. À chaque fois, tu sais que je me pose la question. Hein. C'est le Maine-et-Loire. C'est le Maine-et-Loire, Cholet. Bref. Ok, donc fermeture du public. Fermeture au public de l'Élysée à 17h30. Donc ils ont le temps de faire un peu le ménage dans la cour de l'Élysée. Ils vont pouvoir installer les caméras et on aura une annonce en bonne et due forme bah, quand ça sera prêt, hein. Non, c'est les derniers entrants à 17h30. C'est les derniers entrants qui rentrent à 17h30. Bah, le temps de visiter l'Élysée, ça prend bien 1h30, hein. D'autant que je vous rappelle que sur le site internet de l'Élysée, vous pouvez faire une visite virtuelle de l'Élysée. Voilà, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez sur le site internet et depuis chez vous, vous pouvez visiter, un peu comme sur Google Maps, tu sais, en se déplaçant, vous pouvez visiter l'Élysée, le bureau du président, tout ça, tout ça. Il y aura un gouvernement ce soir? Bah, a priori, il devrait y avoir une annonce de la composition du gouvernement ce soir. On a appris que Matignon, donc Michel Barnier, avait transmis à l'Élysée hier soir une liste, a priori définitive, du gouvernement. Entre-temps, il y a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui doit bosser. Vous savez que c'est une autorité indépendante du gouvernement et du pouvoir qui vise à éviter les conflits d'intérêts et à promouvoir la transparence. Donc les ministres potentiels sont passés au crible de leur situation fiscale, de leur situation pénale et de leur patrimoine et de leur conflit d'intérêts potentiel. S'ils ont bossé dans une entreprise, que cette entreprise a un lien avec leur futur ministère, bah, ça fait un conflit d'intérêts et ils sont obligés de prendre un décret de déport pour ne pas avoir à connaître de ce dossier. Donc la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit passer au crible tous ses ministres. En réalité, la plupart des ministres qui vont être nommés dans ce gouvernement sont d'ores et déjà des parlementaires, députés ou sénateurs. Et les parlementaires, ils doivent déjà faire une déclaration à la HATVP. Donc, a priori, la plupart des ministres, le boulot a déjà été fait en partie. On connaît leur déclaration de patrimoine et la HATVP enfin, connaît déjà leur situation. La HATVP t'a recalé, Jean, c'est pour ça que t'es pas au gouvernement. Bah ouais, moi la HATVP, donc Michel Barnier m'avait nommé ministre, j'ai envoyé ma déclaration de patrimoine à la HATVP, je leur ai montré mon nombre de subs, et ils m'ont répondu, putain, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, franchement, vu tout le boulot que tu fais et tout, je leur ai dit, bah oui, je sais, mais j'y suis pour rien. Et ils m'ont dit, non, on peut pas, hein, je suis désolé. On peut pas. Et les gens s'abonnent pas assez, on peut pas être ministre. Des conflits d'intérêts. Bon, bah c'est pas grave, hein. Même argument. Trop pauvre pour faire partie du club. Ouais. Ministre de l'aviation. Ah bah ouais, carrément. Après l'annonce d'un nouveau ministre, il faut attendre combien de temps avant la prise de poste officielle? Bah, la prise de poste, en fait, officiellement, la prise de poste, elle se fait dès l'annonce de son nom. Mais il faut attendre 24, 48 heures, peut-être 72 heures au maximum, le temps que s'organise une passation de pouvoir avec son prédécesseur. Vous avez déjà vu ces images, hein, l'ancien ministre qui serre la main du nouveau ministre. Ils disent un petit mot pour les journalistes qui sont là. L'ancien ministre remercie tous les fonctionnaires du ministère pour ces belles années, etc. Machin. Il dit merci, ciao, au revoir. Et le nouveau ministre, il remercie chaleureusement son prédécesseur, lui dit tout le bien qu'il pense de lui, et lui dit qu'il sera à sa tâche pour les Français, machin. Voilà. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est le petit truc un peu formel de passation de pouvoir, quoi. Bah, d'ailleurs, on l'a vécu à Matignon, je suis con. Rappelez-vous, il y avait Michel Barnier et Gabriel Attal. Voilà. Ils se sont serrés la main, ils ont fait un petit discours, ils sont cassés. Il y a quand même des pics qui sont envoyés. Ah bah surtout quand il y a une alternance, ouais. Poignée de main, bisous et ciao. Ah bah. Tu sais, au niveau local, parfois, il n'y a pas de passation de pouvoir. Hein. Quand c'est un nouveau maire qui est élu et que l'ancien maire a été défait dans les urnes, il n'a pas envie de serrer la main de son successeur. Hein. Donc ça se fait via les fonctionnaires de la mairie, quoi. Qui disent, bon ben voilà, monsieur le maire, votre nouveau bureau, il est là. L'ancien l'a débarrassé ce matin. Il a laissé des merdes un peu partout. Ah, on m'avait raconté, à l'époque je bossais à la mairie de Paris, je bossais à la mairie du 20e, on m'avait raconté quand la mairie du 13e avait basculé à gauche en 2001, c'était une surprise totale, pour la gauche comme pour la droite. Hein. Et donc la droite a perdu, et quand la gauche est arrivée à la mairie pour prendre place, quoi, prendre quartier, il n'y avait plus d'ordinateur dans les bureaux, il n'y avait plus de ramettes de papier, il n'y avait plus de stylo. Genre vraiment la droite s'était barrée avec tout, quoi, il s'était cassé. En mode, allez tous vous faire foutre, terre brûlée, quoi. En même temps, ils étaient là depuis un siècle et demi, ils s'attendaient pas à partir. Mais c'était une jolie manière de dire, allez tous vous faire foutre. Après, je vous rassure encore une fois, attention, la notion de passation de pouvoir n'a de sens que pour les responsables politiques. Les responsables administratifs, eux, ils restent. L'administration reste, il y a un principe... dans l'administration, il y a un principe de continuité de l'État, de continuité du pouvoir, de continuité de l'effectivité des tâches. Donc les fonctionnaires, eux, ils sont toujours dans leur bureau le lendemain de la passation. C'est les mêmes fonctionnaires. Donc il n'y a pas de mise en danger de la continuité de l'administration. Est-ce que les ministres dorment à leur ministère ? Alors ça dépend des ministères et ça dépend des ministres, mais pour les ministres les plus importants, en général oui, il y a la possibilité de dormir sur place qui est offerte. Il y a un petit appartement, une chambre, alors ça dépend beaucoup des ministères, parce qu'il y a des ministères qui sont des espèces de petits hôtels particuliers un peu mal foutus, où tu peux aménager sous les combles un petit appart avec une salle de bain et une chambre. Il y a des hôtels, il y a des ministères un peu plus récents dans lesquels ça peut être plus agréable. Mais oui, en principe, les ministres ont toujours la possibilité de dormir sur place si nécessaire. À quel point les relations peuvent être tendues entre les fonctionnaires et les ministres ? Ça peut être très tendu, mais les fonctionnaires, il y a un principe politique de la soumission de l'administration aux politiques. L'administration a un rôle de conseil, l'administration a un rôle d'archivage, l'administration a un rôle de passation, l'administration a un rôle de garder dans les clous juridiques tout ce qui est fait, etc. Mais si un haut fonctionnaire ne souhaite pas travailler pour un ministre, il peut tout à fait le lui faire savoir et être mis à pied ou être muté ailleurs. Et c'est ce qui peut arriver, notamment quand il y a une alternance politique. Le jour où la gauche arrive au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'elle va conserver toutes les têtes de la haute administration publique qui ont été nommées par les macronistes pour mener des publics macronistes. Ce serait une forme de cohérence d'ailleurs, un principe de opt-out, un peu à la manière de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, quand un président est élu, ce sont plusieurs centaines de personnes qu'il faut nommer dans un nombre incalculable d'administrations et d'agences. Genre si le RN passe au pouvoir, va y avoir des cas de conscience à propos de cette continuité de l'État. C'est possible. c'est possible que des fonctionnaires disent, notamment des hauts fonctionnaires, parce que bon, les plus petits fonctionnaires dans des bureaux, etc., c'est moins politique, mais des hauts fonctionnaires qui peuvent dire, je suis désolé, servir la République, c'est mon métier, et je ne le ferai pas au service de ces gens-là. Donc je souhaite partir. Mais en général, ces fonctionnaires-là, l'extrême droite, comme tu dis, une fois arrivée au pouvoir, elle serait très heureuse de s'en débarrasser, hein. Ah bah, cassez-vous, barrez-vous, vous avez bien raison, tiens, on vous mute, hop, décret de mutation, ça dégage. Et je nomme quelqu'un d'autre à votre place. Est-ce que c'est possible qu'un élu licencie ou mute un fonctionnaire? Alors un élu, ça dépend. Au niveau local, peut-être, s'il est dans l'exécutif. Au niveau national, ce sont des ministres, ils sont pas élus, ils sont nommés, mais qui mute un fonctionnaire, oui, c'est possible. Le licenciement, c'est plus rare. Le licenciement d'un fonctionnaire, pour des raisons évidentes d'indépendance et de protection de la fonction publique, on ne peut pas licencier facilement un fonctionnaire. Alors, il y a des. Par contre, il y a des principes de discipline. Un fonctionnaire qui commet un délit ou une faute au regard du service peut se retrouver sanctionné. Il y a aussi des syndicats. Oui, il y a des syndicats dans la fonction publique, bien sûr. Quelles sanctions? Bah, les sanctions, alors moi je m'en souviens pas, hein, je vais pas être très précis, je suis désolé, mais les sanctions possibles pour un fonctionnaire, ça peut être le simple rappel à l'ordre, ça peut être un blâme qui va reculer son avancement de carrière, par exemple, ça peut être une rétrogradation à un grade inférieur, généralement assorti d'une mutation. Et ça peut aller jusqu'à la mise à pied. Ça peut aller jusqu'à la mise à pied. Ouais, la mutation disciplinaire, ouais. Et puis à la fin, la mise à pied. Alors après, le fonctionnaire, il a des droits. Il peut contester devant la juridiction administrative pour dire je ne suis pas d'accord. Je pense que j'ai été honteusement mis à pied pour des raisons politiques. J'ai été discriminé, etc. Bon, bah très bien, il va devant un juge. Et le juge administratif juge. C'est un peu comme les prud'hommes pour la fonction publique. Une mise à pied, c'est quoi? Ça veut dire que t'es renvoyé. Mise à pied, c'est un licenciement. Suis en retard, j'étais parti commander un certain livre à la librairie. Est-ce qu'il y a eu des nominations? Non, toujours pas, on attend. Non, c'est pas ça une mise à pied? Ah, une mise à pied, c'est juste une suspension temporaire. Ah, c'est ça la différence avec le licenciement. C'est une suspension, d'accord, ok. Enfin, dans les deux cas, t'arrêtes de bosser, quoi. Tu retournes chez toi, tu attends. Tu attends la suite des événements. Mais la mise à pied, ouais, à mon avis, elle découle assez rapidement sur un licenciement. Hein. Enfin. Oh, remarque, je dis ça, non, peut-être pas, hein. Peut-être que tu peux être réintégré à l'issue de ta mise à pied. Mais pour moi, il y a toujours une sanction après la mise à pied, donc voilà. Genre mise à pied d'un policier visé par une enquête interne pour violence policière. Ouais, d'accord, ok, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, ça a du sens. Pourquoi il ne démissionne pas s'il n'est pas d'accord avec le nouveau pouvoir? Un fonctionnaire peut démissionner, mais démissionner, ça veut dire démissionner de la fonction publique. Se retrouver sur le marché du travail sans emploi alors qu'il avait une fonction, alors qu'il était investi d'une fonction publique, il était au statut. Le plus intéressant pour un fonctionnaire en désaccord avec un ministre, c'est de demander une mutation. Changer de poste. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à la préfecture d'Île-de-France. Sur des dossiers intéressants, bah je vais candidater. Voilà, ciao, bye. Ou une disponibilité, oui, t'as raison, le fonctionnaire peut aussi se mettre en disponibilité. Alors, je sais jamais comment ça marche d'ailleurs, la mise en disponibilité, et combien de temps ça dure. Je crois que ça peut durer quand même assez longtemps. La disponibilité, t'es pas payé. Oui, effectivement, la disponibilité, tu quittes ton corps de fonctionnaire. C'est 10 ans maximum? 5 ans max? Ah, il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 5. 5 ans fois 2. Ah, c'est peut-être ça. 5 ans renouvelables. 2 fois 5 ans dans ta carrière. Ok, d'accord. Et la mise à pied, bah, tu te casses de la fonction publique, hein. Tu t'en vas. Tu ne perds pas complètement ton lien. Pas la mise à pied, pardon, la disponibilité. Tu ne perds pas complètement ton lien avec le corps de fonctionnaire que tu as quitté, puisque tu vas pouvoir le réintégrer plusieurs années plus tard. Ça dépend du motif et ça dépend de l'institution. Ouais, vous avez raison. À mon avis, tout ce qu'on est en train de dire, en fait, ça dépend beaucoup de ton corps de fonctionnaire auquel tu es rattaché. Ça dépend de la raison pour laquelle tu demandes une disponibilité. C'est un congé sans solde, ouais. Bon après, quand tu retourneras dans la fonction publique, après ta disponibilité, c'est pas sûr que t'aies un poste intéressant, hein. On te mettra où on voudra bien te mettre. Bienvenue en tout cas à hein, celles et ceux qui nous rejoignent. On est ici dans la salle d'attente de la nomination des membres du gouvernement de Michel Barnier qui devrait intervenir, paraît-il, avant 20h, selon les rumeurs. On verra. On verra, on verra. On attend la liste. On se doute évidemment de la tonalité de la liste et de quelques noms qui ont d'ores et déjà fuité, voire qui ont été confirmés directement par les personnes concernées. Mais on va voir un petit peu ce qui en ressort de ces journées de tractation où on a vu de fortes tensions entre les macronistes et les républicains, chacun voulant tirer le plus de couverture à soi dans la composition du nouveau gouvernement. Michel Barnier et Emmanuel Macron ont, eux deux d'ailleurs, été relativement tendus dans leurs échanges, semble-t-il, le week-end dernier. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne à la composition du gouvernement. Et de toutes les manières, on garde à l'esprit le fait que ce gouvernement va avoir, dès sa prise de fonction, un challenge énorme qui est celui de parvenir à faire adopter un budget. Challenge énorme déjà parce que l'Assemblée nationale est tripolarisée et qu'il n'y a pas de majorité absolue, ni même relative forte, pour soutenir ce gouvernement. Mais en plus de ça, la situation budgétaire de la France est difficile. On a eu des tirage de sonnette d'alarme important de la part de la Cour des comptes, de la part de la Banque de France. Donc, ça va être tendu, ça va être intéressant à suivre, et peut-être que ce gouvernement Barnier ne va durer que quelques mois, si d'aventure un hypothétique 49-3 sur le budget débouchait sur une motion de censure adoptée à la majorité des votes à l'Assemblée nationale. On verra. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, le RN a annoncé qu'il ne censurerait pas tout de suite ce gouvernement, qu'ils attendraient au plus tard un an pour une nouvelle dissolution, et puis on verra ce qu'ils décideront de faire sur le budget. Est-ce que Michel Barnier va demander un vote de confiance? Non, Michel Barnier ne va très probablement pas demander de vote de confiance, puisqu'il n'y est pas obligé par la Constitution. Michel Barnier va prononcer un discours de politique générale le 1er octobre prochain en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Un discours de politique générale dans lequel il donnera les grandes lignes de sa politique. Et à l'issue de ce discours de politique générale, il ne sollicitera pas la confiance de la Chambre, puisqu'il est certain de ne pas l'obtenir. Il va donc plutôt éviter de demander la confiance. En revanche, les groupes d'opposition, et notamment le Nouveau Front Populaire, vont déposer une motion de censure, qui est un peu l'équivalent en miroir de la motion de confiance. Oui, c'est ça, de confiance. Si vous votez la confiance, c'est que vous avez confiance dans le gouvernement. Si vous votez la censure, c'est que vous voulez censurer ce gouvernement. Donc cette motion de censure déposée par la gauche, bon, Bon, elle est sûre de pas aboutir, puisque Marine Le Pen a dit qu'elle ne la voterait pas. Donc, ça ne permettra que de compter les députés de gauche. Et donc, on retournera dans cette étrangeté qu'on a déjà connue avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal, c'est-à-dire un gouvernement qui n'a pas la majorité, qui n'a pas la confiance, mais qui n'a pas non plus la défiance. Et qui, dans ce clair-obscur, peut gouverner. Difficilement, mais peut gouverner quand même. Quelle est la conséquence d'un vote de confiance qui n'obtient pas la majorité? Eh bien, c'est la même conséquence qu'un vote de défiance qui a la majorité. C'est-à-dire la démission du Premier ministre. Si un Premier ministre demande la confiance à la Chambre et que la Chambre la lui refuse, eh ben il démissionne immédiatement. Puisqu'il est responsable devant le Parlement et que le Parlement vient de lui dire fuck. Est-ce qu'une motion de censure peut être déposée n'importe quand ou seulement après un 49-3? Alors, une motion de censure peut être déposée n'importe quand, mais il y a une limite du nombre de motions de censure qu'un même député peut signer. Pour déposer une motion de censure, il faut être un certain nombre de députés minimum, 58 de mémoire, et vous ne pouvez pas signer en boucle des motions de censure, vous êtes limité dans votre nombre de signatures possibles par an, avec une exception, c'est les motions de censure de 49-3. Qui, celles-ci, sont hors comptage. Et donc, à chaque fois que le gouvernement engage sa responsabilité sur le 49-3, alors vous pouvez signer une motion de censure si vous le souhaitez. Le vote de confiance est légalement contraignant? En fait, le vote de confiance, il est politiquement contraignant. Gardez bien en tête qu'un Premier ministre ne tire pas sa légitimité du choix du président de la République, il tire sa légitimité de la validation par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. C'est le fait majoritaire. C'est le principe de la responsabilité d'un gouvernement devant une Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale est majoritairement favorable à un gouvernement, alors ce gouvernement a les moyens de gouverner. C'est-à-dire qu'il a les moyens de faire passer des lois, puisqu'il y a une majorité. Donc sa majorité va voter ses lois. C'est ça, gouverner. Si par contre un gouvernement perd sa majorité, s'il y a à l'inverse une majorité de députés contre lui, bah il ne peut plus rester Premier ministre, politiquement. Il n'a plus les moyens politiques de diriger le pays, puisque l'Assemblée lui a tourné le dos. Donc elle votera plus ses lois, c'est terminé. Est-ce que Macron peut nommer autant de premiers ministres s'ils se font sortir par l'Assemblée ou est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite, on peut se retrouver dans une période de crise institutionnelle où il n'y a tout simplement pas de premier ministre possible. C'est que vraiment c'est impossible, on n'y arrive pas, on a beau essayer, réessayer mille fois, ça ne marche pas, l'Assemblée trouve toujours des moyens de dégager les gouvernements, personne n'est d'accord. À ce moment-là, c'est dans ce genre de moment-là qu'on arrive sur ce qu'on appelle un gouvernement technique. C'est-à-dire qu'en gros, les groupes à l'Assemblée nationale vont se mettre d'accord à minima pour ne pas censurer un gouvernement de techniciens. C'est pas des politiques, ils sont pas là pour changer quoi que ce soit. Enfin, ils sont pas là pour mener des politiques et tout. Ils vont juste administrer l'État le temps que la crise se calme. Et en général, c'est les élections qui arrivent. Est-ce que c'est possible de légiférer uniquement à coup de référendum? Il faut que tu regardes le nombre de lois qui sont votées chaque année par l'Assemblée nationale. C'est phénoménal. C'est plus d'une centaine, je crois, de mémoire. Est-ce qu'on peut réunir 100 fois par an, donc tous les 3 jours, le peuple, pour voter avec des bulletins de vote dans les bureaux de vote? Est-ce que tu penses que Macron va redissoudre dans 9 mois? Oui, je pense qu'on peut redissoudre dans 9 mois. Pour une raison très simple, c'est que Marine Le Pen l'a dit. Je vous rappelle que c'est Marine Le Pen qui a le doigt sur le bouton nucléaire. Donc, à partir du moment où Marine Le Pen dit qu'elle souhaite une dissolution l'année prochaine, en juin prochain, bah, elle a les moyens de l'obtenir, puisqu'il lui suffit de censurer le gouvernement Barnier. Voilà. Merci. qui pourrait lancer une constituante en cas de crise institutionnelle? Le Parlement. Bon courage à lui. Le Parlement pourrait lancer la création d'une assemblée constituante. Sauf si la gauche trouve une solution. Alors tu as raison, Denis. Tu as raison. On a vu que la gauche avait refusé, en tout cas le nouveau Front Populaire avait refusé l'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon. Il est possible que la gauche, dans l'année qui vient, change d'avis et se dise que plutôt qu'une dissolution, il est préférable d'avoir un gouvernement de coalition avec les macronistes. Ou à minima, sans forcément que ce soit une coalition, que les macronistes accepteraient de ne pas censurer. Alors ça pourrait être un Bernard Cazeneuve, ça pourrait être une Lucie Castel, hein, ça peut être n'importe, peu importe. La question, c'est, c'est le contenu de la politique qui serait menée. Effectivement, dans ce cas-là, Marine Le Pen, même en votant la censure du gouvernement, n'obtiendrait pas d'élection législative. Elle obtiendrait juste la gauche au pouvoir. La gauche, pas trop à gauche, mais quand même. Macron ne voudra jamais faire le moindre compromis avec la gauche. Alors, on verra, j'en sais rien. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les compromis se font aussi sous la pression. Et c'est normal, sous les rapports de force. Si l'hypothèse qui se présente, c'est une large victoire du RN aux élections législatives, peut-être que la gauche et les macronistes vont se dire que ce serait bien d'essayer quand même de faire autre chose. D'essayer au moins. Tu vois? Mais par contre, à l'inverse, si l'hypothèse qui se présente dans les sondages, dans les rapports de force, etc., montre que s'il y a dissolution, a priori c'est la gauche qui en ressortirait renforcée, alors peut-être que la gauche se diront, bah allons-y, on a des chances de gagner. Ce coup-ci, on a des chances d'y aller, donc il vaut mieux une dissolution qu'un compromis. On verra. Littéralement, il y a 2 mois, les macronistes ne voudront jamais. Les gens changent d'avis. Hein. Encore une fois, je vous rappelle quand même que sur cette chaîne, depuis 2 ans, vous m'entendez dire que LR ne veut pas faire d'alliance avec Macron. Et que là, depuis quelques semaines, on est tous en train d'assister à l'alliance entre Macron et LR. Bon, bah, voilà. Il y en a qui changent de camp. Il n'y en a pas de camp, d'avis. Qui voient leur intérêt dans un rapport de force. Faudra voir l'état de la Macronie dans quelques mois. Tu as raison. Faudra voir l'état de la Macronie dans quelques mois. On verra. Un compromis de la gauche avec Macron serait la mort de la gauche qui serait accusée de compromission. Oui, peut-être par une partie des électeurs de gauche, mais si l'alternative à ça, c'est Marine Le Pen au pouvoir. Peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir. EPR plus LR, ça fait plus de députés que le NFP. Oui, les macronistes et les LR ensemble, ça fait plus de députés que le NFP. Bah, d'ailleurs, on l'avait vu au moment de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a été élue par 210 voix et quelques, ce qui était plus que le NFP. EPR, c'est pas tous les macronistes aussi, c'est pas juste Renaissance. Ensemble pour la République, pour moi, c'est le nom de la coalition. Ensemble, Modem, Horizon. C'est pas ça, je me trompe ? En même temps, ils ont changé de nom tellement de fois que moi je m'y perds. Ah non, EPR, Ensemble pour la République, c'est que Renaissance. Bon, mais alors du coup, comment est-ce qu'on appelle Renaissance plus Modem plus Horizon? Coalition présidentielle. Ouais, non, mais moi j'utilise le mot macroniste. Peut y avoir le mot coalition présidentielle. Avant, on utilisait le mot majorité présidentielle parce qu'ils avaient une majorité absolue entre 2017 et 2022, puis relative entre 2022 et 2024. Donc on utilisait le mot la majorité. Comme ça rassemblait tout le monde. Est-ce que le poste de président de l'Assemblée nationale peut être remis au vote avant une autre dissolution? Oui, si elle démissionne. Si Yael Braun-Pivet démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle élection pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale. Regardez, j'ai re-racheté le règlement. C'est la version 2024, parce que la version que j'avais avant, c'était une ancienne version. Et je sais plus où c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Bureau d'âge, démission des députés, bureau de l'Assemblée, présidence et bureau de l'Assemblée. Pouvoir. Page 22. Président de l'Assemblée nationale convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique. Ouais, d'accord. Chargé de veiller à la sûreté et communication, machin. Après, c'est le bureau. Mais moi, je voulais les modalités d'élection. Bon, ça doit être quelque part là-dedans. Putain, il est chiant le. Conférence des présidents. Bon, bref, je potasserai ça une autre fois. Dans le genre truc à potasser aussi, j'ai toujours, je l'ai pas acheté, hein, j'ai toujours le Paris Match. Le Paris Match sur Michel Barnier et sa femme. Portrait intime. Ah non, on est obligé de se documenter hein, pour bosser ici. Hein. Je l'ai pas encore lu, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Ah tiens, il y a des pubs pour du parfum au milieu. Est-ce qu'il y a des échantillons de parfum? Ouais, il y a un échantillon. Ah, ça fouette. Ah non. Ah non, ça a pué maintenant dans mon salon. Non, fais chier. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Bon, je sais même plus où c'est le truc sur... sur Barnier. Ah, c'est là. Sa plus grande fierté, l'organisation des JO d'Albertville. 10 ans de travail pour 15 jours de fête. Waouh. Michel Barnier dans un bureau, Michel Barnier qui serre des mains, Michel Barnier avec François Fillon, Michel Barnier qui fait du ski, Michel Barnier dans le métro, Michel Barnier au sein de l'agriculture, Michel Barnier avec Ursula von der Leyen et Boris Johnson, Michel Barnier avec Rachida Dati et Laurent Wauquiez. Voilà. Ça me saoule. J'ai pas envie de le lire. Michel Barnier va à la plage. Est-ce que tu valides l'expression extrême centre pour la coalition Modem Ensemble Horizon? Non, mais vous pouvez. Extrême centre, c'est un jugement de valeur. C'est un jugement de valeur qui est porté par un certain nombre d'acteurs et de penseurs de gauche qui dénoncent le macronisme et qui utilisent effectivement l'expression extrême centre pour désigner une radicalisation dans le libéralisme autoritaire. Du macronisme et dans aussi la velléité qu'a le camp présidentiel de considérer que tout ce qui est extérieur à lui-même est extrémiste. La gauche est infréquentable, l'extrême droite est infréquentable, il n'y a que nous en réalité qui soyons fréquentables. C'est ça la notion d'extrême centre. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, c'est un jugement très péjoratif sur Emmanuel Macron. Extrême libéral plutôt. Alors, c'est encore plus précis que ça, c'est libéral autoritaire. Parce qu'un libéral, par définition, un libéral, il est pour la liberté des individus, il est pour la liberté, y compris du peuple, de s'exprimer, de se faire entendre. Un libéral, il n'envoie pas les flics pour taper sur des manifestants, s'il est vraiment libéral. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu caricatural, mais c'est cette idée de dénonciation d'une forme d'autorité, d'autoritarisme même, dans la doctrine de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. C'est pas un thème utilisé en recherche extrême-centre. Non, mais d'ailleurs, en recherche, vous savez, on utilise assez rarement la notion d'extrémisme, parce que c'est une notion très, très difficilement malléable. Les chercheurs parlent plutôt de radicalité. On va parler de la droite radicale, pour désigner en réalité ce qu'on utilise dans le langage courant comme extrême droite. Mais un universitaire, il va préférer parler de droite radicale, ou de gauche radicale, quand il va faire de l'analyse. La notion d'extrémisme est une notion qui est courante dans le débat public, qui est courante dans nos esprits à tous, dans le débat médiatique, etc. Mais voilà, et donc extrême centre, c'est relativement récent, extrême centre. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur qui a popularisé le premier la notion d'extrême centre à propos d'Emmanuel Macron. Je crois d'ailleurs que c'est une notion qu'il a reprise d'autres chercheurs à l'étranger. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, il est beaucoup cité par exemple par l'historien Johann Chapoutot, qui est un historien de l'extrême droite, notamment du nazisme, qui reprend à son compte la notion d'extrême centre. C'est Pierre Cernat, merci. C'est Pierre Cernat. Ouais, bien joué. C'est Pierre Cernat. Ouais, c'est bien lui que j'avais entendu l'utiliser en premier. Il avait sorti un livre pour dénoncer l'extrême centre. Merci Thomas Legrand. Ouais, Thomas Legrand dans son podcast Enquête de politique avait fait un... Enfin, a fait, hein, d'ailleurs c'était il y a quelques semaines je crois, un numéro que j'ai beaucoup aimé, de toute façon j'ai aimé tous les numéros de ce podcast, sur le macronisme. Et il s'interroge justement sur la notion de centrisme et de la radicalité d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a un gouvernement? Alors écoute, à l'heure où je te parle, pas encore, on attend, on se fait chier. L'Élysée a dit que ça devrait intervenir avant dimanche, puis la rumeur s'est transformée en fin d'après-midi, puis la rumeur s'est transformée en début de soirée. En tout cas, aujourd'hui, il y avait une démonstration de force dans les rues, une cinquantaine de rassemblements qui ont été organisés par la France Insoumise, qui incitait les manifestants à défiler pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que la France Insoumise a engagé une procédure de destitution du président de la République à l'Assemblée nationale, mais qu'elle a très peu de chances d'aboutir, quand bien même les manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer le gouvernement Barnier avant même sa nomination. Démonstration de force plutôt de faiblesse. Il n'y avait pas grand monde dans les rues aujourd'hui, mais ce n'est qu'une mobilisation à prendre en compte dans une rentrée de mobilisation, puisqu'il y en aura une prochaine, à l'appel cette fois-ci de plusieurs syndicats, qui aura lieu le 1er octobre, le jour même de la déclaration de politique générale en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Il y aura une manifestation, mobilisation à l'appel cette fois-ci des syndicats. Voilà. Quel est l'objectif de Braun Pivet quand elle dit « On regardera la globalité du gouvernement, je serai vigilante à l'équilibre ». Bah, je pense qu'elle dit la même chose que ce que disent beaucoup de responsables parmi les macronistes. Mais du coup, je ne sais plus comment les appeler, moi, macronistes ou ensemble, je ne sais plus. C'est de dire, en fait, je serai attentive à ce que le gouvernement ne soit pas trop à la main des Républicains. Mais de la même manière que les Républicains de leur côté, ils sont en mode « nous, on veut que le gouvernement soit pas trop à la main des macronistes. On veut du changement, on veut pas rester sur la même lignée que ce qui a été fait ces 7 dernières années. On veut une politique de droite plus affirmée, notamment en matière de sécurité, en matière d'immigration et dans les comptes publics. On verra. Mais voilà. » Quel pouvoir a-t-elle? Aucun, particulièrement. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir au regard de la composition du gouvernement, etc. Elle préside l'Assemblée nationale. Par contre, elle est une figure du bloc présidentiel. Elle fait partie des gens qui comptent. Avec Gabriel Attal, avec Édouard Philippe, avec François Bayrou, voilà. Donc elle a son mot à dire. Elle est écoutée par ses collègues. Pourquoi Barnier ne met pas Bardella, ministre de l'immigration, pour éviter une censure du RN? Pour deux raisons. D'une part, parce que le RN a annoncé qu'il ne souhaitait pas participer au gouvernement Barnier. Ils ont juste dit qu'ils ne le censureraient pas, mais ils n'ont pas dit qu'ils voulaient y participer. Ils ne veulent pas de coalition avec les macronistes. Et d'autre part, parce que si jamais il y avait des ministres RN dans le gouvernement, il y a une partie des députés macronistes qui ne voteraient pas, enfin qui voteraient la censure. Comme par exemple Denis, ici présent dans le chat, qui le confirme, censure directe. Voilà, il y a plein de députés macronistes qui disent, attendez, s'il y a du RN, c'est sans moi. Ciao! Donc voilà les deux raisons pour lesquelles il n'y aura pas de RN au gouvernement. Puis de toute manière, Jordan Bardella, il n'avait aucun intérêt à accepter une nomination à un poste subalterne dans un gouvernement alors qu'il est promis à devenir Premier ministre. Y a-t-il des raisons de penser que Michel nous sorte un gouvernement ce soir? Oui, il y a forte raison de le penser. D'une part, parce que Matignon a annoncé qu'il nommerait un gouvernement avant dimanche. Et si je regarde bien dans le calendrier, le jour qui précède le dimanche, c'est le samedi. C'est pas moi, c'est dans la Genèse, hein. C'est dans la Genèse que c'est écrit. C'est le sixième jour. Et d'autre part. Beaucoup de journalistes sont en train de se presser autour de l'Élysée, les chaînes d'information en continu sont aux abords du palais présidentiel, donc tout le monde s'attend à une nomination ce soir des membres du gouvernement. Là, pendant que je vous parle, je suis d'un œil sans le son France Info. Là, ils sont en direct avec une caméra en flux continu depuis la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils attendent, voilà, d'avoir accès au perron de l'Élysée, quoi. Comment ils vont faire avec les journées du patrimoine pour une prise de parole à l'Élysée? C'est ce que je disais au début du stream, c'est que ça me paraissait curieux parce qu'on est, pour ceux qui ont raté, on est en pleine journée du patrimoine. Donc aujourd'hui, à l'Élysée, comme à Matignon d'ailleurs, il y a plein de gens, il y a plein de monde. Il y a des promeneurs, il y a des gens qui viennent visiter l'Élysée parce que c'est les journées du patrimoine, c'est le seul jour où on peut le faire. Et donc du coup, je me demandais effectivement comment ils allaient faire une annonce sur le perron de l'Élysée alors que il y a des touristes partout. Et apparemment, ils ont vidé l'Élysée à partir de 17h30, justement pour cette raison-là. Les visites de l'Élysée sont terminées depuis 17h30, donc le temps de vider l'Élysée. Voilà. Qui étudie la déclaration de patrimoine de Didier Migaud? Alors Didier Migaud est actuellement le président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui est une autorité indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine, les situations fiscales et les situations judiciaires des prétendants à des postes ministériels ou aux parlementaires. Le problème, c'est que Didier Migaud est pressenti pour rentrer au gouvernement. Du coup, il y a un conflit d'intérêts, bah, c'est le cas de le dire. Il ne peut pas être à la tête d'une administration qui va contrôler sa situation à lui. Et du coup, Didier Migaud a fait savoir il y a 48 heures que si d'aventure il était nommé ministre, il se déporterait de son poste de président de la haute autorité. C'est le principe du déport, hein, quand il y a un conflit d'intérêts, tu te déports, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir connaissance des détails qui concernent une situation avec laquelle tu es en conflit d'intérêts. C'est pareil pour les ministres. Pourquoi l'Élysée alors que c'est l'annonce du gouvernement et pourquoi pas Matignon plus tôt? Parce que c'est le président de la République qui nomme les ministres. Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Mais quand même. Donc Factuellement, pratiquement, c'est à l'Élysée qu'est nommé un ministre. Didier Migaud a été annoncé comme garde des Sceaux. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible que Didier Migaud devienne garde des Sceaux. Didier Migaud, je vous le disais, c'est une personnalité politique respectée, qui a été président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui a été président de la Cour des comptes, qui est aujourd'hui président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc il a été, voilà, à la tête de plusieurs institutions indépendantes du gouvernement. Il a une voix qui est respectée, écoutée. Enfin voilà, il fait partie de ces grands hommes d'État qui sont appréciés par tout le monde. Didier Migaud pourrait effectivement devenir garde des Sceaux, ouais. Ce qui serait une belle fin de carrière, pour une carrière déjà bien remplie. Didier Migaud sera classé à gauche, genre centre-gauche. Didier Migaud a fait sa carrière politique au sein du Parti Socialiste. C'est lui qui a été président de la commission des finances à l'époque où le Parti Socialiste était en opposition à Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale. Et il a par la suite été président de la commission des finances, nommé par François Hollande, si je dis pas de bêtises. Ou alors par Sarkozy, j'ai un doute. Mais Didier Migaud n'est plus engagé à gauche depuis 15 ans. On ne peut plus vraiment le compter comme quelqu'un qui fait partie de la gauche. Il n'est pas une personnalité de la gauche. Il n'est pas à la tête d'une organisation politique. Il n'est pas à la tête d'une publication, quelle qu'elle soit. Il n'a pas sorti de bouquin spécifiquement. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, ça fait 15 ans qu'il a des postes. Particulièrement prestigieux et important, mais sans son étiquette de gauche. Autrement dit, si Didier Migaud rentre au gouvernement, il pourra toujours être considéré comme une prise à gauche par Michel Barnier, mais personne à gauche ne va souffrir du fait que Didier Migaud soit entre gouvernement, parce que toute la gauche va dire, bah oui, il est gentil Didier Migaud, mais il n'est pas de gauche, donc c'est pas vraiment une prise, quoi. Donc voilà. On disait la même chose de Borne, mais tout le monde disait que c'était un token de la gauche macroniste. Bah, la différence entre Borne et Didier Migaud, c'est que Borne, elle a été directrice de cabinet sous un gouvernement de gauche. Sa ministre, c'était Ségolène Royal. Indépendamment de ce que vous pensez de Ségolène Royal, c'est pas le sujet. Une directrice de cabinet socialiste qui devient ministre, première ministre macroniste, c'est effectivement plus. Là, on peut le considérer comme une prise. Voilà. Et Valls dans tout ça. Je pense qu'on peut collectivement s'accorder pour dire que la blague Valls n'est plus très drôle. Je pense que vous pouvez arrêter de la spammer. Valls n'a pas d'aspiration à rentrer dans ce gouvernement, il ne l'a pas fait savoir, le gouvernement n'en a jamais parlé, son nom ne circule pas. Je pense qu'on peut laisser Manuel Valls là où il est, c'est-à-dire dans les limbes de l'histoire de la gauche et du centre. L'humour de répétition, c'est bien. Ouais, si vous voulez, si vous voulez. C'est un peu chiant à la longue. Après, c'est probablement parce que comme j'ai le nez dans la politique toute la journée, moi, ça a tendance à vite me gonfler. Enfin, à vite me gonfler, non, mais quand les blagues périment, elles sont périmées, quoi. Genre, c'est bon. Pourquoi ce serait une blague? Il est vraiment, vraiment finito, on est sûr de ça. Oui, Manuel Valls, je suis désolé, Manuel Valls ne représente plus rien politiquement. Il n'est pas. Il est un ancien Premier ministre il y a 7 ans. Il a tenté des aventures à l'étranger, à la mairie de Barcelone, où il a échoué. Il a réessayé en France de se faire élire, il a échoué. Il ne représente pas un groupe de députés, il ne représente pas un parti politique important, il n'est plus qu'invité sur des plateaux télé pour commenter l'actualité. Ce qui, pardon, mais c'est quand même une grosse dégringolade quand il y a 7 ans, il était à la tête du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, Manuel Valls, je vois pas l'intérêt de l'avoir dans un gouvernement. Michel Barnier, je vois pas pourquoi il s'emmerderait à avoir Manuel Valls, qu'est-ce qu'on s'en fout? Un peu comme Cazeneuve. Ouais, un peu comme Cazeneuve. Sauf que quand Cazeneuve, il y en a encore beaucoup qui l'aiment à gauche, au Parti Socialiste notamment. On l'a vu avec le bureau national du PS qui a été houleux sur la question du soutien ou pas à un hypothétique gouvernement Bernard Cazeneuve. Manuel Valls, je ne sais pas par qui il est soutenu et apprécié au PS. On a bien un président de la République qui redevient député. Ouais, mais il a été élu. Donc, je suis d'accord avec toi. François Hollande, lui, il regagne de l'importance. François Hollande. Manuel Valls, lui, il a échoué à se faire élire, ce mec, en 2022. Donc voilà. François Hollande redore un petit peu son blason et reprend de la légitimité par une élection. Manuel Valls, il est commentateur sur BFM. Est-ce qu'on a enfin des nouvelles? Pas encore, on n'a pas encore de nouvelles. Il est 19h26, bienvenue sur ce live. Nous sommes en train d'attendre la nomination et la composition du gouvernement. Nous allons suivre ça de près. Ça devrait intervenir à l'Élysée. Nous allons voir normalement le président, pardon, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, comme le veut l'usage, qui va se présenter sur le perron de l'Élysée avec un petit micro et une feuille dans la main, et il va dire la fameuse phrase. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé, après s'être concerté avec le streamer Jean Massier. Voilà, ça c'est la phrase classique. Et après, il donne la liste des ministres avec l'intitulé de leur ministère et leur nom. Grâce à toi, je m'intéresse à la politique. Ah bah ça fait plaisir. Bienvenue à toi. C'est fait pour ça. Installez-vous confortablement. Si vous y connaissez pas grand-chose en politique, vous êtes sur la bonne chaîne. On est là pour ça. Je sais pas si tu sais, mais il paraît qu'il y a un livre qui va sortir d'un certain Jean Massier. Est-ce que ça te parle? Ça me dit quelque chose. Ouais, j'ai entendu dire que Jean Massier, le streamer politique, sortait un livre aux éditions Payot qui sera disponible le 25 septembre. Il est d'ores et déjà disponible en précommande sur le point d'exclamation livre dans le chat. Un livre qui est un plaidoyer politique en faveur de la jeunesse, pour la démocratie et pour la place des jeunes dans la démocratie. N'hésitez surtout pas à l'acheter, à le lire et à me dire ce que vous en pensez. J'avais jamais entendu parler, bah tu vois. Important, Si on achète ton e-book, est-ce que tu touches autant que ton livre papier? J'en sais rien du tout. C'est où les dédicaces? Oh mais Denis, toi je pourrais te faire je pourrais te dédicacer le tien avec grand plaisir. Comment interpréter les prises de parole de Villepin, Debré et même Guénot quant à la torsion du déni démocratique? Ça fait mal et pas qu'à gauche. Il faut interpréter ça comme le survivalisme. C'est assez intéressant de remarquer quand même que Dominique de Villepin, pas Michel Debré, mais son prénom c'est Jean-Louis Debré et Henri Guénot sont trois hommes ex-politiques qui ne sont plus aux responsabilités aujourd'hui à droite. Ce sont des gens qui sont à la retraite. Et ce sont des gens qui témoignent d'un chiracisme, d'un centrisme, d'un gaullisme, d'une pratique des institutions qui aujourd'hui n'a plus cours à droite depuis le sarkozysme. Alors Henri Guénot, c'est pas son cas, parce qu'Henri Guénot a beaucoup soutenu Nicolas Sarkozy, bien évidemment, il faisait partie de ses équipes très rapprochées à l'Élysée, mais Jean-Louis Debré et Dominique de Villepin, c'était des anti-sarkozystes primaires, c'était des chiraciens. Et le chiracisme, effectivement, n'apprécie pas beaucoup la pratique institutionnelle d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter leur prise de parole. Ce sont des anciens. C'est vrai que Guénot, le chiracisme, j'ai un peu du mal à le dire quand même. Quand le monsieur va annoncer les ministres, est-ce qu'il va dire aussi de quel parti ils sont? Non, il va pas le dire. C'est moi qui vais m'en charger. Mais dans l'usage, on ne précise pas de quel parti vient une personnalité nommée. D'autant qu'il y en a qui sont difficiles à classer, genre Rachida Dati. Elle est quoi, Rachida Dati? Bah alors? À mon avis, ça a fait partie des négos entre Michel Barnier et Laurent Wauquiez. Hein. Alors, on la compte comment, Rachida Dati? On la compte comme un effectif LR ou comme un effectif ensemble? Voilà, donc la négo a eu lieu. J'ai entendu des rumeurs comme quoi Violette Spilbou serait à l'éducation. Tu connais son profil. Violette Spilbou, j'ai pas envie de te dire de conneries. C'est une députée macroniste. Pourquoi je la connais, Violette Spilbou? C'est ça, c'est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry à la mairie de Lille. Elle a rejoint En Marche dès 2018. S'est présentée à Lille. Ça, c'est une prise à la gauche. Enfin, bon, elle est plus de gauche, mais... Elle a bossé sur les médias. Donc voilà. Tu l'as reçu sur Public Sénat. Attends, je l'ai interviewé, Violette Spilbou? Bah non, elle a jamais été sénatrice. Je pense que tu la confonds avec quelqu'un d'autre. C'est Astrid Panosian-Bouvet que j'avais reçue sur Backseat, pas sur Public Sénat. Penses-tu que Macron ait un impact sur le choix du futur gouvernement ou c'est Barnier qui mène la barque? Eh ben non, il a un impact, Emmanuel Macron. Et on l'a vu ces derniers jours, on a appris qu'il y avait des négociations très tendues entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. La première copie que Michel Barnier a présentée à Emmanuel Macron était une copie qui donnait la part belle à LR. Genre vraiment la part belle. Et visiblement, ça n'a pas plu du tout à Emmanuel Macron, qui a fait savoir à Michel Barnier que c'est pas comme ça qu'il entendait les équilibres au sein du gouvernement et qu'il fallait revenir lui présenter une nouvelle copie. Et Michel Barnier s'est, semble-t-il, exécuté. En tout cas, il a négocié et travaillé avec les chefs de l'ancienne majorité. Donc, Emmanuel Macron, il est à la tête d'un groupe de députés, de 130 députés et quelques. C'est pas rien. Et ça lui donne le droit, ça lui donne voix au chapitre. Hein. C'est pas normal, ça? Ah si. Quand t'es à la tête de 130 députés avec une position centrale avec laquelle il faut s'entendre pour faire une majorité relative, t'as ton mot à dire. T'as carrément ton mot à dire. Principe des rapports de force à l'Assemblée. Hein. Un sénateur peut devenir ministre, voire premier ministre, et si oui, il peut cumuler les deux postes. Alors non. Sénateur, c'est un poste de parlementaire. C'est pas un poste d'ailleurs, c'est un mandat, c'est une élection. Tu es sénateur élu pour 6 ans. C'est pas du tout un poste à vie, sénateur. On n'est plus à l'époque de Napoléon, là c'est terminé. Maintenant, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect et ils sont élus pour 6 ans. Et oui, un sénateur peut tout à fait devenir ministre, oui, bien sûr. A priori, on devrait avoir d'ailleurs le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui va devenir ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la rumeur. Et puis, un sénateur est déjà devenu Premier ministre, c'était Jean-Pierre Raffarin, qui était sénateur, totalement inconnu du grand public et qui est devenu Premier ministre. En 2005, 6. Bah non, c'était après le CPE, c'était après Villepin. Est-ce qu'il existe un monde où la liste ne convient pas au RN? C'est possible que le RN... En fait, ce qui va être intéressant à suivre dans les prochains mois, c'est que le Rassemblement National va essayer de garder une apparence d'opposition. Marine Le Pen a besoin de se montrer auprès de ses électeurs comme une alternative, y compris à ce gouvernement-là. Donc, elle va pas dire, elle va pas faire des déclarations d'amour tous les matins au gouvernement. Au contraire, à mon avis, elle va faire monter la pression, elle va faire monter les enchères, elle va menacer de censurer en permanence, elle va jouer à ce jeu-là. Et elle a raison. Enfin, je veux dire, c'est dans un rapport de force parlementaire, c'est le jeu auquel il faut jouer. Donc, Marine Le Pen, elle va critiquer le gouvernement, mais en même temps, elle va pas le censurer. En tout cas, pas dans un premier temps. Toute la question est de savoir si, aux yeux de ses électeurs, elle va apparaître comme une alliée de ce gouvernement Barnier ou comme une opposante. Est-ce que les sénateurs ont aussi des suppléants comme les députés? Non. Il n'y a pas besoin, notamment pour les sénateurs qui sont élus au suffrage, au scrutin proportionnel dans leur département. Et pour les autres sénateurs, ceux qui sont élus, il y a peut-être des suppléants, c'est possible. C'est possible. Toute démission de Michel Barnier ce soir est improbable. Ah, c'est totalement improbable. Michel Barnier va pas démissionner ce soir. Michel Barnier, ce soir, il va nous présenter un gouvernement, la composition de son gouvernement. Et ensuite, il a rendez-vous à l'Assemblée nationale le 1er octobre. Leur objectif, c'est la présidentielle au RN. Oh, c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls à avoir la présidentielle en tête. Je sais que BFM est en train de leaker une liste. Le France Info a leaké toute l'après-midi une liste. Hein. Y a plusieurs listes qui circulent, etc. Je sais bien que BFM est en train de lâcher la sienne. On attend d'avoir la confirmation officielle. Parce que si ça se trouve, ils sont en train de faire leurs derniers ajustements. Hein. Les listes de ce matin sont peut-être plus bonnes. Hein. Annonce par Alexis Kohler à 19h40 a priori. Écoute, très bien, il est 19h37. Ça me convient. Est-ce qu'on va avoir un live sur l'Elysée? Non, visiblement non. Est-ce qu'on se met sur France Info? Ça me fait chier, j'ai pas envie. Où est-ce que je peux choper le live d'Alexis Kohler? Est-ce que sur le site internet de l'Élysée je vais trouver? Je pense pas. Actualité, machin, non. Non, ils font pas des lives directement sur le site. Sur l'agenda, il n'y a rien d'écrit. La chaîne YouTube de l'Élysée, je suis dessus depuis ce matin. Il n'y a rien d'annoncé, il n'y a pas de live YouTube annoncé. D'habitude, ils le font. Quand c'est les conférences de presse notamment. Ils font des annonces de live. Là, il n'y a pas d'annonce. Est-ce que c'est sur la chaîne d'Emmanuel Macron? Je vais garder un œil dessus. Pas de live annoncé non plus. Non. Sur la chaîne du gouvernement.
Je suis liable.
Hop. Pas de live annoncé non plus. Sur le live de Jean Massier, sur le live de Jean Massier, c'est imminent. France Info, je suis dessus là. Je suis dessus, France Info, je les regarde en direct. Ils sont pas encore sur le perron de l'Elysée. C'est une annonce qui a lieu en principe à l'Elysée. C'est normal que ce soit sur la chaîne YouTube de l'Elysée. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de service vidéo de disponible aujourd'hui, hein. Il faut le temps de mettre ça en place, etc. Y a pas de ministre de la vidéo. Ça prouve le sérieux du truc. Oh, ça n'a rien à voir avec le sérieux ou pas le sérieux. Hein. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste une attente d'annonce d'une composition de gouvernement. Pour vous le dire différemment, quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, ce sera autant le bordel. Et c'est normal, parce qu'il y a des arbitrages de dernière minute. Il y aura des rumeurs, il y aura des... Comme d'hab. C'est pas spécifique à un camp politique. Ils n'ont pas un truc qu'ils peuvent réquisitionner. Si, ils ont un pool vidéo normalement qui est capable de faire. Qui est capable de faire des live vidéo. Le problème, c'est qu'il faut quand même les prévenir un peu avant. Enfin, je suis bien placé pour savoir qu'un live, ça s'improvise pas. Sur tout ce genre-là. C'est pas un live compliqué à faire là, parce qu'il s'agit d'une caméra qui filme le perron de l'Elysée. Mais peut-être que leur service vidéo était, enfin, objectivement pas dispo s'ils les ont prévenus à 18h en mode ah, vous pouvez filmer? Bah non, frère, en fait, on n'a pas de technicien, on n'a pas de matos. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement laisser les chaînes d'info et les caméras des télés s'introduire et c'est elles qui vont se démerder pour filmer en fait. C'est l'autre technique, hein. Trépied plus ring light plus téléphone et let's go. Salut mes petites chéries, c'est Alexis Colère. Alors aujourd'hui, je voulais vous annoncer un truc incroyable sur lequel on bosse depuis un bout de temps maintenant. C'est la composition du gouvernement. Le gouvernement, vous savez, c'est l'équipe des gens qui dirigent le pays, en fait, pour faire simple. Et donc voilà, je vais vous donner la liste. Alors, le Premier ministre, c'est Michel Barnier. Voilà. Vous vous rendez compte dans quel état ça me met? Vous rendez compte à quoi on s'abaisse? C'est terrible. T'arrêtes pas, c'était crédible. Sponsor NordVPN. Ouais. Non, 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 truc crypto chelou. Non, non, des sponsors crypto chelou. Genre c'est une bête de monnaie, elle est trop bien, elle est garantie les frères, elle est garantie les frères. Mettez un max de fric dedans, franchement je vous jure, ça va cartonner, un truc de ouf. Vous allez devenir riche et vous installer à Dubaï. La crypto backseat. Oh, la back money. Le backcoin. Quel enfer. On est d'accord, ça s'est un peu calmé, hein, les délires de crypto et tout. Parce que, bon, y a une époque qui nous pétait les burnes avec ça, mais genre vraiment matin, midi et soir, les crypto bros, là. Tout le monde a compris que c'était un scam. Genre, c'est fini. Non, un peu quand même, ça continue? Parce que. Parce que tous les mecs qui nous promettaient de faire fortune rapidement. On a bien vu qu'ils n'ont pas fait fortune rapidement, je veux dire. Elle est où la voiture de sport là? Elle est où la. Je sais pas, j'y connais rien en voiture de sport. Bref. Elle est où la Ferrari? Tu l'as toujours pas? Bah alors. Mais peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés les crypto bros. Et qu'ils y vont un peu mollo maintenant. Parle pas en voiture, parle en avion. Au fait, vous saviez qu'il y avait des coques de téléphone backseat? Point d'exclamation shop dans le chat. En vrai, abstenez-vous d'acheter des trucs backseat, hein, on gagne rien dessus, c'est vraiment. Enfin, faites-le si ça vous fait plaisir, hein, foncez, achetez-vous un t-shirt et tout, c'est cool. Mais on gagne pas d'argent dessus, hein, y a pas de. Comment ça, vous gagnez rien? On gagne que dalle. Franchement, sur un t-shirt que tu vas payer 20 euros plus 5 euros de livraison, nous, on va gagner 1 euro. Genre vraiment, c'est pas du tout ça qui finance Backseat. Mais vraiment pas. C'est 100% de l'argent que vous allez mettre, il va partir dans le t-shirt. Pas à Backseat. Mais c'est pas grave, encore une fois. Je préfère être transparent, je vous le dis, ça nous rapporte que dalle. Par contre, si vous voulez avoir un t-shirt Backseat, offrez-vous un t-shirt Backseat. Franchement, c'est cool. Pourquoi le faire? Parce que c'était réclamé, justement. Il y a des gens qui réclamaient de pouvoir s'acheter des goodies et tout. Bah. let's go. Enfin, si vous voulez. Excusez-moi, je suis en train de bugger parce que je viens de recevoir un texto qui me confirme que mon taxi est arrivé. Ah mais ça y est. Ah mais du coup ça y est, je suis ministre. Ça commence. C'est pour m'emmener à l'Élysée pour signer, je sais pas, peut-être pour signer mon contrat. Et non, en l'occurrence, c'est pas du phishing. Je confirme que ça vient bien du compte G7 officiel, machin et tout. Mais du coup, je peux le contacter, le mec, pour lui dire bonjour, monsieur. Je suis désolé. Et non, je peux pas. Je peux pas le contacter. Je vais le laisser m'appeler. Je vais le laisser m'appeler. On verra bien. Bon, l'Elysée, t'en es où sur le live là? Je continue à refresh hein, la chaîne YouTube. Toujours rien. La chaîne d'Emmanuel Macron. Il y a aucune raison que ce soit sur sa chaîne à lui. Mais on vérifie toujours. Il y a rien. Tu sais, c'est flippant parce que quand t'es sur une chaîne YouTube, tu vois le petit liseré rouge en bas, ça t'indique que t'as déjà regardé la vidéo. Tu sais, c'est le timecode et tout. Et moi, c'est flippant parce que sur la chaîne d'Emmanuel Macron, j'ai tout regardé. Parce que pour le boulot, je suis obligé. Et du coup, ça me fait flipper de constater que ouais, j'ai vraiment. Ah putain, c'est vrai que j'avais regardé ça, ouais. C'est terrifiant. Comment ça se formalise une nomination, un arrêté signé par le ministre? Oui, je crois que c'est un décret de nomination. Un décret de nomination du président de la République, ouais. Nomination des membres du gouvernement. Merci Mister JC, merci Chris K, merci au micro dans ma maison ronde, merci Alexandre, merci Kia. Merci Baba Orom, merci Super Bob, merci Yelni, merci Hello Rookie, Katchibre, Léonore, Camiop, Iliazan, Plogan, Chapeau de Paille, Wasp, Dur à Trouver, Mini Doudou, Acid Chamoulina, Jésus, Bambiz, JDG du 29, Julo, Yol Nirda, Sébastien Castiel, Isorea. Bon, la nomination est imminente, hein. Merci Azriel, merci Ralm. La nomination est imminente, ça y est, les caméras sont prêtes. Alors, c'est pas dans le perron de l'Elysée, c'est à l'intérieur de l'Elysée, visiblement, qu'ils vont le faire. Le perron, c'était pas possible. C'est pas grave, on attend Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, qui doit venir présenter la composition du gouvernement de Michel Barnier. Je vous le diffuserai en direct. Hein. Je vous le diffuserai en direct, vous inquiétez pas.
Je rappelle que les électeurs de la droite républicaine aussi ont voté.
On écoute Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée en direct.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
Voilà, surex la lumière, beaucoup trop surex.
Sur la proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les Territoires et de la décentralisation. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame Anne Genneté, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture.
Ok, Dati reste à la Culture.
Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants.
Ouais.
Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux Soins. Monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes. Madame Valérie Létard.
C'est un mec à l'égalité femmes-hommes.
Logement et de la rénovation urbaine. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur Gilles Averrous, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Je connais pas.
Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'Action publique. Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Okay.
Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Benjamin Haddad, chargé de l'Europe. Auprès du Premier ministre.
C'est pas Damien Abad, hein.
Madame Nathalie Delattre, chargée des relations avec le Parlement.
Confondez pas.
Madame Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Madame Marie-Claire Carrergé, chargée de la coordination gouvernementale. Auprès de la ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Madame Françoise Gatel, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat. Monsieur François Durovray, chargé des Transports. Monsieur Fabrice Loher, chargé de la Mer et de la Pêche. Auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Nicolas D'Aragon, chargé de la Sécurité du Quotidien. Auprès de la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Alexandre Portier, chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Sophie Primas, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger.
Ça, c'est tous les ministres délégués.
Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, Madame Olga Givernet, chargée de l'Énergie. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Monsieur Marc Ferracci, chargé de l'Industrie. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Madame Marina Ferrari, chargée de l'économie du tourisme. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Madame Agnès Canayer, chargée de la famille et de la petite enfance. Sont nommés secrétaires d'État. Auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Othmane Nasrou, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations.
Donc ils ont retiré le mot laïcité.
Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Thani Mohamed Swalihi, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Madame Laurence Garnier, chargée de la consommation.
Ok, Laurence Garnier, elle est rétrogradée à la consommation.
Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, Madame Salima Sa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Clara Chapaz, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le lundi 23 septembre à 15h. Je vous remercie.
Bisous Alexis, merci beaucoup. Ah non, ça c'est à moi de le faire ça. Voilà, donc c'était la déclaration par le secrétaire général de l'Élysée de la composition du gouvernement. Du coup, la liste que j'avais était une liste un petit peu datée. Il va falloir que je retrouve une meilleure liste. Maintenant qu'il vient de l'annoncer. Sur le live du Monde. Ah bah oui, évidemment, le live du Monde, je suis con. Boum. Ah ouais, mais ils l'ont fait... Putain, ils ont pas la liste d'un coup, ils l'ont fait entrée par entrée. Ça m'arrange pas. Il faudrait un texte copiable, collable. Faut attendre que d'autres le fassent, ouais, exactement. Aucune surprise, mesdames et messieurs, dans ce gouvernement, aucune surprise. On s'y attendait, c'est un subtil équilibre entre des responsables importants de LR et avec la Macronie, donc il y a une forme de continuité avec le gouvernement précédent, c'est pour ça qu'on retrouve Rachida Dati. Je note quand même que Bercy, donc le ministère de l'économie et des finances, échoit à deux ministres macronistes et plutôt des jeunes, c'est-à-dire relativement peu, hop là, expérimentés. À l'économie, j'ai noté. C'est Antoine Armand qui est à l'économie, et c'est Martin qui est au budget. Donc en tout cas, les macronistes gardent la main sur l'économie. Par contre, les LR prennent la main sur le ministère de l'Intérieur, avec Bruno Retailleau, le très influent Bruno Retailleau, qui se retrouve bombardé ministre de l'Intérieur. C'était attendu. C'est qui le divers gauche dans la liste? On a entendu Didier Migaud. Didier Migaud qui est nommé à la justice, c'est ça? C'est Pannier-Runacher à l'énergie, ouais. Pannier-Runacher à l'énergie et Didier Migaud effectivement à la justice. Donc Didier Migaud, l'actuel président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et ancien premier président de la Cour des Comptes, se retrouve au sein du gouvernement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que c'est une prise à gauche? Pas vraiment, puisque personne à gauche ne considère Didier Migaud comme étant de gauche. Didier Migaud a quitté le Parti Socialiste il y a plus de 15 ans maintenant. Bon, voilà. Il n'est pas une personnalité identifiée comme étant, comme appartenant au sérail actuel de la gauche, quoi. Il vient d'où le ministre de l'Intérieur? Pourquoi c'est lui qui est élu? Alors il n'est pas élu, il est nommé, c'est une nomination, pas une élection. C'est le président du groupe LR au Sénat. C'est un groupe extrêmement stratégique pour Emmanuel Macron, puisque vu la composition de l'Assemblée nationale et vu les difficultés qu'il y a à faire passer des textes à l'Assemblée nationale, le Sénat va retrouver un rôle assez important d'arbitre entre plusieurs débats qui peuvent exister. Et qui c'est qui a la main au Sénat? C'est le groupe LR. Donc avoir un ministre de l'Intérieur qui est le président, enfin l'ancien président du groupe LR au Sénat, c'est pas inintéressant pour Emmanuel Macron, enfin pas pour Emmanuel Macron, pardon, pour Michel Barnier. C'est lui qui va s'emmerder. Si vous ne le connaissez pas, Bruno Retailleau est un homme de la droite conservatrice, catholique. C'est un ancien proche de Villiers, Philippe de Villiers. Qui s'est séparé avec Philippe de Villiers et qui est entré au sein des Républicains avant de devenir président du groupe LR. Il est élu en Vendée. Ouais, il est élu en Vendée, Bruno Retailleau. Presque que des hommes, est-ce que c'est normal? Je sais pas, je n'ai pas fait le calcul pour savoir si c'était un gouvernement paritaire ou pas. On nous avait annoncé un gouvernement paritaire, hein. Moi, j'ai payé pour un gouvernement paritaire. Hein. Je sais pas où ça en est, mais... On va voir, il faut faire le calcul. Paritaire entre LR et macroniste. Ah, elle est peut-être là, la parité. Elle est peut-être là, la parité, c'est vrai. Bon, où est-ce que je peux retrouver la liste complète? En vrai, ça m'arrangerait. Tiens, Libé, ils ont pas publié un truc? Vas-y, file la liste, wesh. Non. Le Figaro, dites-moi que vous avez un truc, le Figaro. Voici la composition du nouveau gouvernement Barnier. Non, ça c'est qu'une partie et c'est pas une liste. Le wiki, c'est à jour? Ah. gouvernement Barnier. Hop, merci beaucoup. Bougez pas, je copie-colle ça. Voilà. On va peut-être le faire un peu plus gros quand même. On en taille combien là? On a donc Didier Migaud qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice, Catherine Vautrin qui se retrouve ministre du Partenariat avec les Territoires et la Décentralisation, poste très important, Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur, donc poste extrêmement important, Anne Jonthet ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Noël Barrot à l'Europe et aux Affaires étrangères, Rachida Dati reste à la Culture, Sébastien Lecornu ministre des Armées, Agnès Pannier-Runacher, Transition écologique, Énergie, Climat et Prévention des risques, Antonin Armand ministre de l'Économie, Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux Soins. Et Paul Christophe, donc c'est Darrieussecq qui est à la Santé, ok, d'accord. Mais c'est pas les Solidarités, c'est Paul Christophe qui est aux Solidarités, Autonomie, Égalité, Femmes, Autorité, Femmes, Hommes. Mais il doit avoir une secrétaire d'État ou une ministre déléguée qui est une femme qui s'occupe des femmes et des hommes, de Égalité, Femmes, Hommes. Valérie Létard, ministre du Logement. Annie Genevard à l'agriculture, Astrid Panosian-Bouvet au travail, Gilles Averrous au sport, à la jeunesse et à la vie associative, Patrick Hetzel qui est à l'enseignement supérieur, ça on l'avait appris, Guillaume Casbarian à la fonction publique, François-Jean-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, et Laurent Saint-Martin au compte public. C'est Laurent Saint-Martin qui va s'arracher les cheveux le premier, hein, c'est lui qui doit faire un budget. Et on a Jean Massier qui est ministre au subprime, mais ça on le savait. Ok. Et la ministre des Relations avec le Parlement, bah, je sais pas parce que pour l'instant c'est une version provisoire que j'ai semble-t-il. J'attends la continuation parce que à mon avis il en manque. C'est Nathalie Delattre. Pas de ministre de l'économie. Si. Le ministre de l'économie, c'est... Armand, Antoine Armand. Antoine Armand. Ça manque de poids lourd. Alors effectivement, tu as raison de souligner un point intéressant, c'est que Laurent Wauquiez a refusé de participer à ce gouvernement. Il l'a annoncé aux députés vendredi, aux députés LR. Laurent Wauquiez n'est pas dans le gouvernement. François Bayrou n'est pas dans le gouvernement. Édouard Philippe n'est absolument pas dans le gouvernement. Gabriel Attal n'est pas dans le gouvernement. Ça, c'était à peu près sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est intéressant à analyser. Ça manque de poids lourd. Ça manque de poids lourd. Il semblerait que pas grand monde ne croit à la capacité de ce gouvernement à durer. Et que personne n'a envie de rentrer dans cette galère. Retailleau, c'est pas un peu un poids lourd? Non, Retailleau, je le mettrais pas dans les poids lourds, je le mettrais dans les points importants au sein d'LR, mais sur la scène politique nationale, Bruno Retailleau, il est pas si connu que ça, tu vois. C'est pas Laurent Wauquiez, c'est pas Rachida Dati, c'est pas... Si, il y a Rachida Dati, c'est vrai, dans le gouvernement, elle, c'est une poids lourd. Annie Genevard, ouais, Annie Genevard, ça pèse pas mal quand même. Annie Genevard à l'agriculture, ouais. C'est qui le divers gauche? C'est Didier Migaud, tout en haut, ministre de la Justice. Les poids lourds ne veulent pas se mouiller à cause de la future présidentielle. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Les poids lourds ne veulent pas se mouiller. Et il n'est pas sûr que ce gouvernement dure très longtemps. Et à mon avis, c'est le pari que font beaucoup de gens quand même, hein, de se dire bon, ce gouvernement, c'est sympa, mais ça va pas aller très loin, quoi. C'est pour ça qu'ils envoient plutôt des seconds couteaux. Donc aucun socialiste actuel n'a trahi le Front populaire. Et ils ont dit qu'ils le feraient pas de toute façon. Enfin, pourquoi tu voudrais qu'ils le fassent ? Qu'est-ce qu'un socialiste irait faire là-dedans ? La censure a-t-elle des chances de passer ? Non, parce que le Rassemblement national a annoncé qu'il ne censurerait pas le gouvernement. En tout cas, pas dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des gens de la gauche du coup ? Il n'y a pas de gens de la gauche dans ce gouvernement, il y a juste Didier Migaud qui était au Parti Socialiste jusqu'en 2010 et qui ensuite a été premier président de la Cour des Comptes, puis président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est pas une figure de la gauche, Didier Migaud. Hein. Ou alors c'est une ancienne figure de la gauche. Quel déni de démocratie. Bah ça, on verra. On verra si une motion de censure les renverse. C'est là qu'on verra si ce gouvernement peut gouverner ou pas, c'est s'il échappe à une motion de censure. Y a-t-il des défections au sein d'ensemble ? Pas à l'heure où on parle. Pas à l'heure où on parle. On n'a pas appris de départ d'un... Attendez. Oui, allô ? Oui, bonjour. Ouais, c'était Taxi G7. C'est Taxi G7 et ils savent pas pourquoi, parce que du coup, pour ceux qui ont raté, il y a un chauffeur de taxi qui m'attend en bas de chez moi là, et j'ai jamais commandé de taxi et personne n'en a commandé pour moi, j'ai rien dans mon agenda, enfin vraiment, il n'y a aucune raison. Et du coup, le mec m'a dit, je lui ai demandé, mais vous savez qui a commandé ? Il m'a dit non, on peut pas le savoir. Je dis, bah, je suis désolé monsieur, hein, j'y suis pour rien. Ah, c'est parce que je suis ministre, c'est ça ? Ah merde. Ça y est, je suis obligé d'y aller. Attends. Ah, c'est mieux. Fais gaffe aux docs. Non, mais il y a pas de docs, hein. C'est effectivement, c'est bel et bien Taxi G7 avec leur numéro, machin, qui m'ont envoyé un texto, qui viennent de m'appeler. Désolé. Qu'est-ce que je peux vous dire en fait sur ce gouvernement ? Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce gouvernement. Hein. C'est une équipe dont on connaît la coloration politique. C'est une alliance entre LR et les macronistes, eux qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord depuis 2 ans, et en réalité depuis 7 ans. Là, ils sont contraints et forcés de le faire. C'est un gouvernement qui est placé sous la coupe et sous la vigilance de Marine Le Pen, qui peut décider à tout moment de mettre fin aux fonctions de Michel Barnier en votant une motion de censure. C'est un gouvernement qui va devoir se coltiner le budget, qui va être particulièrement difficile à négocier, notamment entre LR et les macronistes, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les choses à faire. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y avait une cinquantaine de manifestations partout en France pour demander la destitution d'Emmanuel Macron et pour contester le gouvernement Barnier. C'était une petite journée de mobilisation. On verra ce que donnera la journée de mobilisation syndicale le 1er octobre, jour du discours de politique générale, qui sera à suivre en direct sur ma chaîne sur Twitch, bien entendu. D'ailleurs, on ne va pas suivre que le discours, on va suivre tout le débat qu'il y a derrière. On va enfin voir à l'œuvre cette nouvelle assemblée, quand même, parce que c'est la rentrée parlementaire. Hein. Depuis les élections, on n'a jamais vu l'Assemblée réunie. Hein. Ce sera la première, ce sera chouette. Et voilà, et ce gouvernement de Michel Barnier, il est composé de représentants des Républicains et de la Macronie qui sont embarqués désormais sur le même frêle esquif. Est-ce que tu penses que si le RN fait une motion de censure, la France Insoumise votera pour ? Jusqu'à présent, la France Insoumise a toujours refusé de voter les textes présentés par l'extrême droite. Toujours. Je vois pas pourquoi ça changerait. Voilà, pour te répondre. Une fois, LFI a voté un texte de droite. C'était une motion de rejet. Mais c'est la seule fois. Le reste, ils ont toujours refusé de voter... les textes défendus par en face. Tiens, d'ailleurs, à propos du Rassemblement National, vu que c'est le premier groupe à l'Assemblée Nationale, le Rassemblement National a la première niche parlementaire qui sera réunie dès octobre, je ne sais plus quelle date exactement en octobre, mais le Rassemblement National a une niche qu'on appelle une niche, c'est un jour dans l'agenda de l'Assemblée qui est consacré à un groupe. Et dans une niche parlementaire, le groupe en question peut défendre ses propositions de loi. Le 31 octobre, merci les amis. 31 octobre, niche parlementaire du RN. Au cours d'une niche parlementaire, un groupe donc a l'opportunité de défendre ses propositions de loi et le RN a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient défendre une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Le jour d'Halloween, ouais voilà c'est ça. Donc le RN va déposer une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Pareil, cette motion sera-t-elle votée par les députés de gauche ? On sait d'ores et déjà que les socialistes ont dit non, ils ne voteront pas cette abrogation-là, les écologistes ont dit non, les communistes, alors on a entendu Fabien Roussel avoir des propos ambigus sur le sujet en disant que visiblement c'était pas encore tranché, et la France Insoumise, à ma connaissance, ils voteront également pas l'abrogation de la réforme des retraites déposée par le RN. Ça fout la trouille si la gauche vote contre. En fait, il faut voir le détail du texte, parce que vous savez, une loi d'abrogation, c'est pas un texte d'une ligne sur lequel il y a écrit « nous abrogeons hein. ». C'est pas ça, une loi d'abrogation. Une loi d'abrogation, c'est un dispositif, notamment financier, économique, qui prévoit un mode de financement. Et a priori, on verra ce qu'il en ressort, mais il semblerait que le Rassemblement National ait l'intention de proposer une abrogation de la réforme des retraites qui ferait peser le financement du surplus de dépenses sur l'abrogation de l'aide médicale d'État. Ah, évidemment, c'est le RN, hein, on se refait pas. Ils sont pas devenus de gauche, les mecs. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un de gauche peut raisonnablement voter la suppression de l'aide médicale d'État pour que ça finance les retraites ? Je vous laisse juge, vous décidez, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai la suite du gouvernement. Putain, il va être long ce gouvernement. Alors, attendez. J'essaie de faire ça bien. Ah non, merde. Voilà, si, c'est bon. Ah bah on est bien là. Eh hey, salut. Vous avez vu, c'est le gouvernement. Donc c'est Benjamin Haddad qui est chargé de l'Europe, Nathalie Delatte chargée des relations avec le Parlement. Bon courage Nat. Maud Bréjon, porte-parole. Marie-Claire Carrère G, coordination gouvernementale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Françoise Gatel, chargée de la ruralité, commerce et artisanat. François Duvrovray au transport. Fabrice Loher à la mer et à la pêche. Nicolas Dargon, je ne sais pas, sécurité du quotidien. Alexis Portier, réussite scolaire et enseignement professionnel. Sophie Primas, commerce extérieur et français de l'étranger. Marc Ferracci, industrie. Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, économie sociale et solidaire, intéressement et participation, ouais. Marina Ferrari, économie du tourisme. Olga Givernet, énergie. Et Agnès Canaillé, petite enfance. Au moins, il n'y a pas de ministre de l'immigration ou de l'identité nationale. Tu as raison. Tu as raison, il n'y a pas de ministre de l'identité nationale ou de l'immigration. Il y avait pourtant eu des rumeurs comme quoi, visiblement, les Républicains réclamaient la création d'un tel ministère, évidemment qui rappelle les années Sarkozy. Mais il semblerait que soit Michel Barnier, soit Emmanuel Macron aient refusé. Ouais, c'est vrai. On n'a pas non plus de ministre de la laïcité, effectivement, on n'a pas de ministre de la laïcité. Comment il s'appelait celui qui était pressenti pour être à la laïcité ? C'est qui celui qui s'occupe des discriminations et tout ? Il t'en manque encore des secrétaires d'État. Ah oui, il m'en manque encore. Ah oui, t'as raison, c'est les ministres délégués. Il me manque encore les secrétaires d'État. Ils sont pas encore sur la page Wikipédia du gouvernement. Donc j'attends encore un peu. T'as raison. Othmane Nasrou, oui c'est ça, c'est Othmane Nasrou qui était pressenti pour occuper un ministère de la laïcité et finalement ce sera pas le cas. Bon, on va parler un petit peu des réactions à ce gouvernement. On va parler un petit peu des réactions à ce nouvel gouvernement. Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté le casting du nouveau film Catastrophe macroniste est connu. Le gouvernement des perdants des élections législatives est dans la main de l'inquiétant ministre de l'Intérieur, président du groupe dominant du Sénat, où se décidera donc désormais le contenu des textes supportés par LR. Cette combinaison n'a ni légitimité ni futur, il faudra s'en débarrasser aussitôt que possible. D'accord. Jordan Bardella qui tweet « Ce nouveau gouvernement signe le retour du macronisme par une porte dérobée. Ce que les Français ont démocratiquement sanctionné à deux reprises ne peut revenir par de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir. » Mais que vous allez quand même pas censurer. Lucie Castet qui tweet « On nous promettait un gouvernement de concorde, on a un gouvernement de droite dure. C'est la démocratie qui est humiliée ce soir et avec la fin de ce suspense de papier. » Marine Tondelier qui tweet « Un gouvernement contre nature et contre la nature, qui aurait pu prédire ?» Sandrine Rousseau qui tweet « C'est le chant du cygne du macronisme, ne perdez pas espoir. » Hashtag nouveau Front Populaire. Gérald Darmanin qui tweet « Je souhaite la pleine réussite du gouvernement mené par Michel Barnier, son succès sera celui de la France et des Français. » C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais Gérald Darmanin quitte le gouvernement. Gérald Darmanin n'est pas renouvelé alors qu'il avait été annoncé comme éventuellement étant ministre potentiel à Bercy. Gérald Darmanin, donc, c'est une sortie de piste pour l'ancien ministre de l'Intérieur, dont la carrière politique n'est pas terminée. Lui qui est très 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 connu des Français maintenant. On verra ce que ça donne. Et enfin, la réaction de Michel Barnier. Michel Barnier qui tweet « Une équipe !» point d'exclamation. « Maintenant, au travail !» point d'exclamation. Bon courage, mon Michou. Ça va être chaud du cul. Alors... C'est bon, j'ai la suite du gouvernement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, on va rallonger encore cette liste qui n'est pas assez longue. Putain, j'ai eu peur, il y a une fenêtre qui vient de claquer. Allez, on rallonge la liste. Ah là, c'est bien comme ça. On est content ? Comment... Comment est-ce que je peux mettre cette merde quelque part à l'écran sans que ça cache ni le chat ni ma gueule ? Quelqu'un sait où est Jean ? Mets le chat à droite. Ah ouais, non, mais mettre le chat à droite, c'est toute une, c'est tout un process. Hein. Putain, le pire c'est que ça marche. Oh mon dieu. Ça y est, vous êtes à droite. Vous êtes content d'être à droite ? Moi j'ai mis le gouvernement à gauche, hein. C'est vous qui me l'avez demandé, hein. Vous êtes responsable de vos dires. bah nickel. On est tous de droite ici, non ? Oh oui. Il y a toujours moyen d'être à la droite d'un militant insoumis. Toujours. Mais c'est bien. C'est pas grave. C'est quoi la grosse surprise de ce gouvernement ? Il n'y a pas de grosse surprise dans ce gouvernement, si ce n'est le départ de Gérald Darmanin, qui était donné pourtant restant. On peut parler du maintien de Rachida Dati, où il y avait un doute sur son maintien. On avait aussi parlé qu'elle pourrait aller à l'Assemblée nationale. Ah, l'Éducation nationale, pardon. Didier Migaud, donc voilà, Didier Migaud qui devient garde des Sceaux. Bon, Didier Migaud, garde des Sceaux, c'est pas une grosse prise à la gauche, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Du reste, il n'y a pas de grosse surprise. Bruno Retailleau, effectivement, ministre de l'Intérieur, qui fait son entrée, important ministère, belle prise pour LR. Et on en parlait, quelqu'un le faisait remarquer dans le chat assez justement, il n'y a pas beaucoup de poids lourds. C'est vrai que ce gouvernement n'est pas rempli de poids lourds nationaux qui, semble-t-il, comme Laurent Wauquiez, préféraient rester à l'extérieur de cette équipe gouvernementale. Dont peu prédisent un avenir glorieux, quoi. Alors oui, c'est vrai, à droite, il y a Annie Genevard, c'est quand même pas n'importe qui. Jean-Noël Barrot, c'est pas n'importe qui non plus, encore que Catherine Vautrin, c'est vrai que c'est pas n'importe qui à droite. Les poids lourds, ils savent que ce sont des sièges éjectables. Oui, non, mais c'est ça, ils sont pas débiles, hein. Est-ce qu'on a déjà eu un gouvernement aussi à droite? Ah bah on a eu pire, on a eu Nicolas Sarkozy, ouais, pendant 5 ans, au gouvernement de François Fillon. Vous avez pas connu ça, vous? Bah ouais. Ministère de l'immigration et l'identité nationale, ministère de l'intérieur hyper vénère. Tu me diras, on a déjà connu ça aussi, mais... Mais ouais, entre 2007 et 2012, c'était pas fun, hein. Enfin, c'était pas fun, c'était ni fun ni pas fun, c'était la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, ouais, Henri Guénaud. Avait Pasqua aussi, c'est vrai, il y avait Charles Pasqua sous Chirac. Gérard Longuet, putain, il y avait Gérard Longuet au gouvernement, Éric Woerth. Ouais, Pasqua en 86, ouais. Ah, je crois qu'il s'est surtout illustré sur le théâtre corse, à l'époque contre les terroristes. Non, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Bruno Le Maire, mais ça c'est pas surprenant, on avait bien compris que Bruno Le Maire était sur le départ, il l'avait dit lui-même, donc pas de surprise. Tiens, je voulais compter si c'était un gouvernement paritaire ou pas. Alors, on va compter les femmes. 1, alors je pars d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Moi, je vois 20 femmes. Alors, il y en a beaucoup en bas de la liste, hein. Je compte les hommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je compte 18 bonhommes. 18 bonhommes et 20 femmes. Bah, ça m'a l'air très paritaire, ouais. Ça m'a l'air assez paritaire. Par contre, effectivement, si tu regardes le haut du panier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, en vrai, il y a pas mal de femmes, hein, dans le haut du panier, hein, pour les ministères les plus importants. On peut pas dire que les femmes sont reléguées au rang de secrétaire d'État, hein. Catherine Vautrin au territoire, Anne Genetet à l'éducation, Rachida Dati à la culture, Pannier-Runacher à la transition écologique, énergie, climat, prévention des risques, Geneviève Darrieussecq à la santé, Valérie Létard au logement, Annie Genevard à l'agriculture, Astrid Panosyan-Bouvet au travail. Je pense que ça déconne pas, hein. Franchement, et à l'inverse, si on regarde les hommes, Didier Migaud à la justice, Retailleau à l'intérieur, Barrot aux affaires étrangères, Lecornu aux armées, Armand à l'économie, Christophe aux solidarités, et Hetzel à l'enseignement supérieur. Franchement, C'est vraiment un gouvernement wokiste, hein. C'est la prise de pouvoir du sexe faible sur le sexe fort. Tout par avolo. C'est le wokistan à nos portes. Ah bah c'est moi. Moi, vous me demandez mon avis, je vous dis, c'est la gauche qui a gagné. Hein. C'est la gauche qui gouverne. Truc paritaire avec autant de femmes à des postes à responsabilité, c'est une victoire culturelle de la gauche. Voilà. C'est Mélenchon qui tire les ficelles. C'est Mélenchon qui tire les ficelles de ce gouvernement, de toute évidence. Combien de temps tiendra ce gouvernement? C'est une excellente question que tu poses. C'est une excellente question que tu poses. On verra. On verra combien de temps dure ce gouvernement, d'autant que la première loi sur laquelle ils vont se péter les dents, c'est le budget, qui promet déjà des débats serrés et difficiles. Aussi longtemps que le RN le voudra. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, c'est bel et bien le RN qui a à sa main la possibilité de dissoudre le gouvernement si d'aventure il décidait de voter une dissolution proposée par la gauche, ou par Liot, ou par je sais pas qui. Est-ce qu'on sait quand sera le discours de politique générale? Absolument, le discours de politique générale aura lieu le 1er octobre prochain, à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Je me ferai un plaisir de vous commenter ce discours de politique générale. Et j'ai pas encore l'heure. J'ai pas encore l'heure, je vous le donnerai un jour. Donc le RN votera les lois de ce gouvernement s'ils sont cohérents. Non. Non, le RN n'a pas annoncé qu'il soutenait ce gouvernement. Le RN a dit qu'ils acceptaient de ne pas le censurer. Ils acceptent de ne pas le censurer parce que si jamais ils le censuraient, c'était la porte ouverte à un gouvernement de gauchistes dirigé par exemple par Bernard Cazeneuve. Et ça, le RN ne le voulait pas. Donc ils ont accepté de ne pas censurer ce gouvernement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont voter ces lois. À mon avis, ils vont faire un travail d'amendement serré. Et vont faire chier ce gouvernement pour essayer de faire passer un maximum d'amendements. En échange de leur abstention de voter une motion de censure. C'est du rapport de force classique dans un parlement. C'est quoi le discours de politique générale? Un discours de politique générale, comme son nom l'indique, c'est simplement un discours que prononce le Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale et où il dit aux députés « voilà quel est mon programme, mon projet, voilà quelle est la ligne de mon gouvernement ». Et un discours de politique générale est l'occasion d'un débat de politique générale, puisqu'après que le Premier ministre se soit exprimé, il y a les représentants des différents groupes de l'Assemblée nationale qui se succèdent pour dire ce qu'ils en pensent de ce gouvernement et de sa ligne politique. Et à l'issue de ces discussions, il peut y avoir un vote de confiance, c'est-à-dire que les députés sont appelés à se prononcer en faveur du gouvernement s'ils le souhaitent, ou alors il peut à l'inverse y avoir un vote de défiance, c'est-à-dire que les députés sont invités à se prononcer contre le gouvernement s'ils le souhaitent. Voilà. C'est ça un discours de politique générale, c'est un moment politique important. Cazeneuve égale gauchiste, Kappa. Pour le RN, oui. Pour le RN, oui. Cazeneuve, c'est trop à gauche pour eux. Macron, c'est trop à gauche pour eux. Barnier, ça leur convient déjà un peu mieux. C'est quand le discours de politique générale du coup? Le 1er octobre, mettez-le dans vos agendas. Le 1er octobre, alors ce sera soit à 10h, soit à 15h. Pourquoi le FN n'aime pas Dupond-Moretti? Parce que Dupond-Moretti déteste le FN depuis toujours et qu'il n'a jamais mâché ses mots contre l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe si un vote de confiance venait à ne pas rassembler une majorité de voix? Et bah de la même manière que si une motion de censure était adoptée, le Premier ministre présente sa démission au président de la République. Il a perdu l'assentiment de l'Assemblée nationale, il ne peut plus gouverner. Il n'y aura donc pas de vote de confiance. Non, il n'y aura pas de vote de confiance. Par contre, il y aura un vote de défiance qui sera proposé par la gauche. Il y aura une motion de censure qui sera proposée à l'adoption dès le 1er octobre. Et a priori, cette motion de censure ne sera votée que par la gauche. Et comme la gauche a perdu les élections, ce ne sera pas majoritaire. Démission que le président est obligé d'accepter? Oui. Oui, le président est obligé d'accepter. Enfin, il est obligé d'accepter, non, parce que le président de la République peut maintenir en poste quelques jours un gouvernement, comme on l'avait vu avec Gabriel Attal, un gouvernement démissionnaire, le temps d'en composer un autre. Donc c'est officiel, la gauche a perdu les élections. On verra. On verra si la gauche réussit à faire adopter la destitution du président de la République, la censure du gouvernement Barnier. S'ils réussissent à faire adopter ces textes-là, alors oui, on pourra dire qu'ils ont gagné les élections législatives, oui. Un gouvernement NFP, ça ressemble à quoi? Qui au NFP peut être à Bercy, par exemple? Alors, au ministère de l'économie, j'en sais rien. Au ministère des finances, ça peut tout à fait être Éric Coquerel, qui est l'actuel président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas n'importe qui, quand même. Est-ce que le RN peut décider au dernier moment de voter la censure? Oui. Ce serait quand même marrant une censure dès le 1er octobre. Ah bah ça aura pas duré longtemps du coup, ouais. Je dis bien que c'est peu probable, puisqu'en l'état actuel des choses, on sait que Marine Le Pen ne souhaite pas censurer ce gouvernement. En tout cas, pas tout de suite. Marine Le Pen a annoncé qu'elle souhaitait censurer ce gouvernement l'été prochain. Hein, parce qu'elle veut une nouvelle dissolution, Marine Le Pen. Et elle veut pas qu'une dissolution, Marine Le Pen. Elle veut une loi qui change le mode de scrutin, pour qu'on vote à la proportionnelle et non plus au scrutin majoritaire par circonscription. Parce qu'elle sait très bien que c'est elle qui a le plus de chances de remporter un scrutin proportionnel. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire de la 5e un budget non ratifié? Alors oui, je crois qu'il y a un précédent, mais je ne sais plus en quelle année c'était. Où il y a eu un budget qui n'est pas passé au Conseil constitutionnel, je crois. Pour je ne sais plus quelle raison à la con. Et du coup, ils sont passés par ordonnance pour reconduire le budget précédent. Pourquoi autant de ministres en France comparé à l'Allemagne où il y en a 16? Parce que l'Allemagne est un État fédéral. Donc il y a un certain nombre de compétences que tu vois listées ici. Là, voilà. Il y a un certain nombre de compétences que tu vois listées ici qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, qui appartiennent aux Länder, qui appartiennent aux régions, si tu veux. La France est un pays centralisé. Enfin, il y a une décentralisation, mais c'est pas un État fédéral, la France. Donc le gouvernement de la République s'occupe de tout ça, là. Est-ce que le RN peut à lui seul avoir la dissolution? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est effectivement assez intéressant comme cas de figure à s'interroger. Mettons que Marine Le Pen, au cours de l'année 2024, les sondages donnent le RN en bonne posture, à plus de 30% des voix sur un scrutin proportionnel. Le Rassemblement National se confirme comme étant le premier parti de France. Marine Le Pen est confiante et elle se dit c'est le bon moment de dissoudre, comme ça si enfin c'est le bon moment de dissoudre, comme ça on déclenche une élection législative et je vais arriver en tête et du coup on sera au gouvernement, nous le RN. Marine Le Pen décide donc de censurer le gouvernement de Michel Barnier, donc elle apporte les voix du RN à une motion de censure déposée par la gauche, par exemple, qui décide de déposer une motion de censure, et le RN dit nous allons la voter. Donc le RN vote avec la gauche, et du coup le gouvernement est censuré. Emmanuel Macron n'est pas obligé de dissoudre. Il a juste une censure de son gouvernement, il n'est pas obligé de dissoudre. Emmanuel Macron, il peut se tourner vers la gauche et dire à la gauche, bon, qu'est-ce que vous préférez, la gauche? Vous voulez une dissolution? Où vous risquez de perdre les élections vu les sondages, et où Marine Le Pen arrivera au pouvoir, ou vous voulez un gouvernement de coalition avec les macronistes? Vous avez le choix. Vous avez le choix entre Bernard Cazeneuve et Jordan Bardella. Choisissez quoi? Je caricature à peine, hein, c'est à peu près comme ça que les choses vont se poser. L'autre possibilité, c'est que la gauche se dise « Attends, c'est mieux. En fait, on a intérêt à une dissolution. » Parce que quand bien même Marine Le Pen arrive en tête, les macronistes vont encore perdre de l'espace. Et nous, la gauche, on va encore gagner des circonscriptions. Alors, si c'est un scrutin proportionnel, il n'y aura pas de circonscription, mais je vous expliquerai ça. Peu importe. On va gagner plus de sièges à l'Assemblée nationale. Donc on sera davantage en position de force avec 250 députés qu'avec 200 comme on en a aujourd'hui. Donc on a intérêt à une dissolution qui placerait certes le RN en tête, mais en réalité à ce moment-là on pourra imposer une coalition aux macronistes qui restent. Voilà. LFI voudra jamais un gouvernement de coalition. Alors on aura Jordan Bardella à Matignon. Sauf que le Front Républicain, je suis pas sûr que ça marche. D'autant qu'en fonction du type de scrutin qu'on met en place, c'est pas sûr que ça existe le Front Républicain. Il n'y a pas forcément des votes de barrage dans tous les scrutins. Ça dépend. C'est un scrutin proportionnel à liste unique ou à liste départementale avec deux tours. Est-ce qu'il y a des effets de seuil, etc. Bon, ça dépendra de la loi, de comment elle est écrite, etc. Quel type de loi peut changer un mode de scrutin? C'est une loi simple. C'est une loi simple qui peut changer le mode de scrutin. Quel serait l'intérêt de Macron de changer le mode de scrutin? Je suis pas sûr que Macron y ait intérêt. Je pense que Macron n'aura pas vraiment le choix puisque c'est réclamé par le RN et par le NFP. C'est pour ça qu'on a appris qu'Emmanuel Macron ne fermait pas la porte à une évolution du mode de scrutin. Il l'a dit la semaine dernière. Sans compter le modem, ouais. C'est une loi simple, mais encore. Une loi simple, c'est, ça s'oppose à une loi organique. Les lois organiques, ce sont des lois organisationnelles qui... ce sont des lois organisationnelles qui précisent la Constitution. La Constitution, elle ne traite pas tous les détails du fonctionnement de la République. Elle s'occupe des, grandes, des grands ensembles, des grandes institutions, mais ensuite, ce sont des lois organiques qui précisent un petit peu la méthode. Une loi ordinaire, c'est une loi ordinaire. Et les lois organiques, c'est un peu plus difficile à adopter qu'une loi ordinaire. Il y a un processus plus complexe. De toute façon, les lois organiques, ça, on ne les adopte pas tous les matins. Hein. C'est des lois assez rares. Pourquoi le NFP le demande si la proportionnelle rendrait le NFP inutile? Parce que le NFP est né dans la douleur. Le NFP, le nouveau Front Populaire, il est né de la volonté commune de partis qui préférait ne pas avoir à faire un accord. Tu demandes aux insoumis, tu demandes aux communistes, tu demandes aux écolos, tu demandes aux socialistes, chacun ils te répondent, bah moi franchement si on pouvait éviter d'avoir à faire un accord avec les autres, je préférerais. Préférer y aller tout seul aux élections. Mais bon, comme c'est un scrutin majoritaire par circonscription, on est un peu obligé, parce que sinon on se fout tous dans la merde, on se gêne les uns les autres, et au final personne gagne. Donc bon, bah, contraint et forcé, il faut bien le faire, donc ils le font. Mais à choisir, préférer défendre leur couleur. Hein. Un scrutin à l'allemande, chaque parti présente sa liste, et advienne que pourra que le meilleur gagne. Du coup, plus de représentation territoriale avec la proportionnelle, ça dépend, parce qu'en réalité, la proportionnelle, ça n'existe pas. Il y a plusieurs proportionnelles, il y a plusieurs manières de faire une élection proportionnelle, et on n'est pas obligé d'avoir des listes nationales. Ça peut être une élection proportionnelle avec des listes régionales ou avec des listes départementales, même, c'est possible. Il est possible. Enfin voilà, tu peux aussi faire des scrutins mixtes avec une partie qui se fait au scrutin majoritaire par circonscription, plus une partie de l'Assemblée qui est, elle, élue au scrutin proportionnel. Tu peux avoir plusieurs bulletins, tu peux avoir plusieurs manières de faire le scrutin. Il faut prendre le temps d'en discuter, parce que tu peux le faire en un seul tour, comme les européennes. Tu peux le faire en deux tours, comme les régionales. Tu peux le faire en mode mixte, comme les sénatoriales. Il y a plusieurs proportionnelles possibles. Une loi organique est-elle inscrite dans la Constitution? Non. Changer le nombre de députés, ce serait quel type de loi? Je me souviens plus. Je crois que c'est une réforme de la Constitution. Le nombre de députés, il est fixé par la Constitution. Donc, si tu veux réduire ou augmenter le nombre de députés, t'es obligé de modifier la Constitution. Quel intérêt de la proportionnelle si c'est pour que le RN l'emporte? Bah, les partis politiques aiment bien la proportionnelle parce que ça permet de se mesurer les uns aux autres. Ça permet de faire des accords sur la base d'un scrutin qui met tout le monde au pied du mur. La Constitution a dit qu'il y a jusqu'à 560 députés, ça peut être moins. Ah ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. C'est le nombre maximum qui est fixé dans la Constitution, c'est bien ce que j'avais en tête. Si tu veux réduire, c'est une loi organique du coup? Me souviens plus. Ou c'est une loi simple? Je viens d'arriver, on est d'accord qu'il n'y a pas de ministre de gauche et que des ministres de droite, voire très à droite. Alors, non seulement on est d'accord, mais en plus j'espère que tu n'es pas surpris. Faut pas être surpris. C'est exactement ce à quoi on s'attendait, compte tenu des personnes qui ont négocié, des rapports de force au Parlement, etc. Personne à gauche n'a accepté de rentrer dans ce gouvernement. T'as effectivement une critique du scrutin majoritaire, c'est la critique des bulletins perdus. Si vous êtes un électeur de gauche dans une circonscription de droite, votre voix, elle est perdue. Elle a servi à rien. Parce que le mec a été élu. Alors, c'est pas une bonne manière de présenter les choses, ce que j'aime pas beaucoup en mathématiques statistiques, on n'a pas le droit de dire ça. Non, le scrutin, une fois qu'il a eu lieu, tu peux pas en déduire des voix ensuite pour dire qu'elles ont servi à rien. Bah non. Parce que si elles avaient été plus nombreuses, elles auraient gagné ces voix, donc elles n'ont pas servi à rien. Mais bon, admettons. L'intérêt, par contre, si vous habitez dans une circonscription de droite et que vous êtes de gauche, par exemple, un scrutin proportionnel, ça vous permet que votre bulletin soit compris. N'importe où vous habitez, en fait, on s'en fout. Y a plus de besoin de circonscription. Alors, sauf si on fait un truc départemental et tout, mais. Ça éviterait peut-être le parachutage également. Non, au contraire, le scrutin proportionnel, ça a plutôt du genre à favoriser le parachutage. Tu peux te retrouver avec des listes avec que des Parisiens dessus, c'est un peu chiant. Sauf si tu mets en place un système territorialisé. On est d'accord qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée dans moins d'un an, peu importe ce qu'il se passe. Absolument, on est bien d'accord. On est bien d'accord, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections organisées avant le 9 juin prochain, 2025. C'est impossible, c'est illégal, c'est pas possible. C'est contraire à la Constitution. Il y a un divers gauche d'après LCI. Oui, il y a un divers gauche dans le gouvernement, il s'appelle Didier Migaud, il est tout en haut de la liste, là, il est garde des Sceaux, ministre de la Justice. Didier Migaud est un ancien responsable politique de gauche du Parti Socialiste, qui a été le président de la commission des finances de 2007 à 2012, puis il a été premier président de la Cour des comptes, et après il a été le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Didier Migaud a quitté le Parti Socialiste depuis 2010, je crois. C'est pas... Et puis Didier Migaud n'est pas un homme reconnu aujourd'hui par la gauche comme étant un homme de gauche. Enfin, c'est pas. Il a pas. Il a occupé des postes importants, surtout très honorifiques, à la tête d'institutions indépendantes, comme la Cour des comptes ou la HATVP, mais qui ne l'ont pas placé au cœur du jeu politique où il avait à défendre ses convictions. Donc. Michel Barnier peut tout à fait considérer que c'est un homme de divers gauches et il n'a pas tort, mais la gauche ne revendique pas Didier Migaud comme un homme de gauche. Donc c'est pas très grave, enfin, on s'en branle un peu quoi. Après l'expérience douloureuse de la dernière législative, tu penses vraiment que Le Pen voudrait dissoudre ? Elle n'a pas juste intérêt à attendre au chaud 2027 ? Non, Marine Le Pen ne veut pas juste une dissolution. Marine Le Pen veut un changement du mode de vote, du scrutin, puis une dissolution. Par contre, parce que tu as raison, l'année prochaine, si c'est pour se retrouver à nouveau avec un front républicain contre elle, Marine Le Pen, elle en veut pas d'une nouvelle dissolution. Par contre, ce qu'elle veut, c'est qu'on passe à la proportionnelle. Parce que si on passe à la proportionnelle, je vous rappelle que Jordan Bardella fait 33% des voix aux européennes. 33% des députés, Marine Le Pen, elle veut bien ça. Ça lui ferait plaisir. Elle est partante. Let's go. Est-ce que la censure aura une chance de passer ? Dans un premier temps, non. La censure a très peu de chances de passer, puisque les seuls qui ont annoncé leur volonté de voter une censure, c'est le NFP, et que le NFP a 200 députés. 200 députés sur 577, ça ne fait pas une majorité. Ça fait pas une majorité. Non, mais ça peut te faire une majorité absolue plus confortable déjà. J'ai dit absolue, non, relative. Relative. Le ministère des Transports est inclus au ministère de la Transition écologique, oui, depuis plusieurs années maintenant. Et heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passerait si le Premier ministre venait à démissionner avant un an ? Retour à la case départ, le président de la République serait à nouveau contraint de trouver un Premier ministre à même de composer un gouvernement capable d'échapper à une motion de censure. Si un ministre démissionne, doit-il rester en poste jusqu'à son remplaçant ? Oui. Est-ce que tu penses que Macron dissoudra l'Assemblée nationale dans 10 mois ? La vraie question, c'est est-ce qu'il aura le choix ? Ça, le challenge. Si Michel Barnier se fait censurer, peut-être qu'il essaiera Bernard Cazeneuve ? Rappelle la seule fois où une motion de censure a été jusqu'au bout, le président a renommé le même Premier ministre. Ah oui, mais entre-temps, il y a une dissolution, je te rappelle. Qui a été remportée par le président de la République. Donc oui, il a renommé le même, complètement. C'était Pompidou. Si un député rentre au gouvernement, est-ce que son suppléant le remplace ou est-ce qu'il y a une élection partielle dans la circo ? Non, le suppléant le remplace. C'est à ça que ça sert, les suppléants. Il est extrêmement décevant ce gouvernement, non ? Ça dépend pour qui ? Si t'es de gauche, oui, mais ça, fallait pas s'attendre à autre chose. Si t'es sarkozyste, à mon avis, tu peux être relativement content. Hein. Le MoDem qui avait combattu Sarkozy se retrouve dans ce gouvernement. Je suis bien d'accord avec toi. C'est très intéressant à souligner, ouais. Le MoDem, d'ailleurs, je te rappelle que le MoDem, il a hésité jusqu'à la dernière minute à participer à ce gouvernement. Hein. Visiblement, le MoDem, ils ont fait des réunions au sommet au sein de leur parti pour se poser la question de savoir est-ce qu'on participe à un gouvernement sarkozyste. Alors que le MoDem a toujours été, justement, le défenseur du centre indépendant et qui ne voulait pas faire alliance avec l'UMP. Et là, il se retrouve dans un gouvernement carrément UMP. C'est impressionnant, hein. La roue tourne à tourner, exactement. La roue tourne à tourner. Je vais ranger ma scène, moi. Parce que vous m'avez fait faire n'importe quoi, du coup c'est tout le bordel. Hop. Et hop. Voilà, c'est mieux rangé. Ah, très bien. Vous repassez à gauche. C'est bon, vous repassez à gauche. Bon bah les amis, voilà, on a un gouvernement, voilà ce qu'il en est. Je vous rappelle que la prochaine étape, la plus importante, ce sera le 1er octobre prochain, à l'occasion du discours de politique générale. Vous le suivrez en direct avec moi sur cette chaîne. J'ai hâte de vous le commenter. On va suivre ça, les votes sur les motions de censure potentielles, ou même certaines d'ailleurs qui vont intervenir. Et voilà, pas beaucoup de surprises dans ce gouvernement, on s'y attendait. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas que je sors un livre aux éditions Payot que vous pouvez trouver en précommande sur le point d'exclamation livre dans le chat. Un livre, un plaidoyer politique sur la question de la jeunesse. N'hésitez pas à le lire. Et voilà. À très bientôt. Salut les copains.